Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria et de Jacqueline Lovenbruck, diffusé en direct mercredi 30 juillet 2003 de 18 à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Dilectissime et auditore et ave.
Je ne sais pas si on dit comme ça en latin. Attends, parce que j'ai des choses à vous dire en latin après.
Salut les copains.
Dilectissime, oui, ça c'est sûr. Auditore, non, peut-être les auditeurs, ceux qui écoutent. Non. Docteur Dor, vous qui êtes un homme de la science et de la.
Je pense aussi, mais je ne suis pas.
Ave, bon, espérons que.
Vous êtes bien loin, mon pauvre monsieur.
Espérons que un auditeur pourra me dire si je me suis trompé en essayant de faire une petite facétie.
Tous au dictionnaire.
Bonsoir, ma chère Victoria.
Bonsoir, mon cher Daniel.
Bonsoir, Franck. Voilà, parce que je ne sais pas ce qui se passe entre vous et Victoria, mais je ne sais pas. Enfin, elle l'a dit. Elle a annoncé avec tellement d'emphase.
Bien sûr, on l'avait perdu depuis 3 semaines.
Bah, il n'y a pas de pluie, dites donc.
Il courait les plages.
Attendez, oui. Enfin, bon, passons. Et moi, ça fait 6 semaines que je ne suis pas venu.
Ah bon ?
Personne s'en est aperçu d'ailleurs.
Tout
le monde s'en fiche. Attends, je suis venu le 18 juin, j'avais lancé un grand appel.
Ah bon ?
Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs le 18 juin, mais j'avais lancé un appel. Et puis bah, depuis, je ne suis point venu.
Bah dis donc, c'est long.
Alors il y a beaucoup d'auditeurs qui ont été extrêmement satisfaits, d'autres fort mécontents.
Pas du tout, ils vous réclamaient à chaque fois. Et Daniel Amiche, quand est-ce qu'on l'entend ?
Eh ben voilà, ça y est, c'est fait en direct. En direct. Et puis s'ils sont très très sages, ils vont m'entendre beaucoup au mois d'août. Voilà. Bon, tout va bien, ma chère Victoria.
Tout va très bien.
Parce que nous, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Voilà, donc vous avez entendu la voix mellifluée de notre Victoria nationale, et puis vous avez entendu aussi la voix de notre ami le docteur Dor qui nous fait un petit brin de compagnie ce soir et qui va vous entretenir de toutes ces belles initiatives. Et moi, je voulais vous parler pour rentrer. Il y a beaucoup, beaucoup d'invités ce soir. Vous allez pas être déçus.
Oh, ça
hein.
va être les galopades.
Oh, non, mais des gens bien. On va faire un magazine très, très bien ce soir avec beaucoup de gens très différents qui vont dire des tas de choses formidables et différentes. Moi, je voulais vous entretenir de quelque chose de très très important. Je pense que certains de nos auditeurs sont déjà au fait que le grand acteur et réalisateur américain Mel Gibson a achevé au mois de mars de cette année un film qui s'appelle La Passion. En français, enfin en anglais, The Passion. Et comme je parle très bien l'anglais. J'insiste beaucoup, c'est The Passion, c'est pas Passion, c'est The Passion, c'est la passion unique,
la seule,
irremplaçable, induplicable, la passion. C'est un film qu'il avait en projet depuis plus de 10 ans, et qui se propose de porter à l'écran, puisque c'est un cinéaste, c'est pas un théologien ni un écrivain, de porter à l'image les 12 dernières heures de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, de sa vie terrestre, puisqu'il est ressuscité, Deo gratias. Donc, disons en gros, de la trahison de Judas, du baiser de Judas au jardin des Oliviers jusqu'au Golgotha. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres scènes, il y aura la résurrection, il y aura beaucoup de choses formidables. Et ce film, La Passion, a été tourné en Italie, dans deux endroits différents. Le premier endroit, disons, de novembre à décembre, juste un tout petit peu avant les fêtes de Noël, dans une petite ville absolument admirable de la province de la Basilicata, qui s'appelle Matera, qui possède la particularité d'avoir des bâtiments dont certains remontent à 2000 ans. Donc, et comme c'est un endroit avec très montagneux, avec des vallées, avec des grottes, ça représentait un petit peu la Jérusalem de l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a tourné les scènes d'extérieur là. Et puis, à la rentrée, après les fêtes de fin d'année, il est retourné en Italie. Cette fois-ci, il a tourné à Cinecittà, où il avait fait construire des décors absolument grandioses. Donc, le prétoire, le palais de Caïphe, en fait, etc. C'est des choses absolument extraordinaire. Donc. Et ce film a été l'objet d'une polémique aux États-Unis avant même qu'il ait été terminé. C'est-à-dire que la polémique a commencé quasiment au mois de janvier, alors que le film, le tournage ne s'est arrêté, ne s'est fini qu'à la fin du mois de mars. Sous la foi d'indiscrétions, sous la foi de rumeurs, sous la foi d'ailleurs d'un synopsis ou d'un scénario très très ancien du film, puisqu'il a travaillé pendant plus de 10 ans sur cette affaire, c'est pour lui le film de sa vie. Volé dans les studios de sa maison de production, qui s'appelle Icon Productions. Icon, c'est icône. Et quand on va sur le site, on voit un visage de la Sainte Vierge, une icône de la Sainte Vierge, très très beau. Parce qu'il faut vous dire que Mel Gibson est un catholique. Catholique, presque anté-conciliaire. En fait, il est très très catholique. Donc, il ne supporte rien d'autre que la messe en latin. Enfin, en latin, suivant le rituel de oui. Saint-Pisac. Bon, parce qu'à lui, on lui fait pas. Et la polémique a commencé parce que, évidemment, tourner un film sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans le climat hollywoodien contemporain, a été imaginé comme certains, comme pouvait être un film antisémite. Bien connu, ça c'est l'argument qui malheureusement tue aujourd'hui. Bien. Il est vrai que l'antisémitisme a tué des juifs, mais enfin aujourd'hui, être critiqué d'antisémitisme arrive à vouloir détruire un film avant même qu'il ait été achevé d'être tourné. Alors, il y a eu une énorme polémique, alors je ne veux pas tout vous raconter parce que nous allons en reparler au mois d'août, puisqu'il se trouve que deux des prêtres qui ont assisté Mel Gibson sur les deux tournages, le tournage à Matera et le tournage à Cinecittà, sont deux prêtres amis, donc l'un qui viendra au mois d'août, on va avoir pendant une heure et demie un entretien avec lui, puisqu'il a très bien vu tout ça. Mel Gibson lui servait la messe tous les jours, oui, enfin c'est des choses tout à fait intéressantes quand même, communier tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, enfin vraiment bon. Piété tout à fait extraordinaire, et le rôle titre, celui évidemment du Christ, est joué par un fantastique comédien américain qui s'appelle Jim Caviezel, je le prononce à la française, qui a joué dans beaucoup de films. Connaissez-vous, ça vous dit rien du tout, ça?
Non,
vous qui êtes une grande... Approchez-vous du micro.
Je fus une grande dévoreuse de cinéma, mais plus maintenant.
Ah, vous avez tort, parce que ce film-là va être tout à fait passionnant.
Oui, mais ça, celui-là, c'est précipité.
Si on trouve véritablement un circuit de distribution. Alors, le film possède la particularité suivante aussi, par le fait qu'il est servi par une équipe de comédiens de première qualité, et que ce que j'en ai vu, ce qu'on appelle un trailer, c'est-à-dire un petit pré-annonce, une bande pré-annoncée, absolument stupéfiant, et tous les témoignages que j'ai lus, j'en ai lu des centaines et des centaines et des centaines, sur les gens qui ont vu le film monter, mais pas monter pour la salle, monter uniquement à des fins de montrer ce que c'est, sont tous absolument enthousiastes du film. Mmh. Que ce soit des chrétiens, que ce soit des catholiques, que ce soit des évangélistes, enfin des protestants, que ce soit des agnostiques, que ce soit des juifs ou autre chose, les gens sont absolument passionnés par le film. Et ce film possède la particularité d'avoir été tourné en deux langues qui sont deux langues mortes, c'est-à-dire le latin et l'araméen. Autrement dit, tout le texte, tout le scénario du film, qui est un film fondé sur les quatre évangiles, enfin les trois synoptiques plus évangiles de Saint Jean, mis ensemble, synoptisés, si je peux dire, ont été retraduits donc de l'américain en latin et en araméen. Et le film est entièrement en latin et en araméen. Tous les acteurs parlent le latin et l'araméen. Ponce Pilate parle le latin, notre Seigneur Jésus-Christ parle l'araméen. Voilà. C'est un film, et il n'y aura pas de sous-titres.
Je vous préviens tout de suite.
Non, c'est pas prévu qu'il y ait des sous-titres. Non, c'est pas prévu. Mel Gibson n'y tient pas du tout, et je crois qu'il a absolument raison. À partir du moment où on connaît l'histoire, de Gethsémani jusqu'au calvaire, c'est 12 heures fondamentales pour l'histoire de l'humanité. On connaît l'histoire. Et ceux qui la connaissent pas, ça leur donne l'occasion de réviser avant ou de l'apprendre après. Et ce qui est important, c'est de voir. C'est le film le plus, d'après tout ce que j'ai lu, c'est le film le plus réaliste qui a été fait sur la passion du Seigneur. Donc voilà, tourné en latin et en araméen.
Alors tout de suite, on vous critique sur le site de Mel Gibson. Oui. Le titre original du film est Passion.
C'est faux, c'est absolument faux. Je vous garantis que le film, c'est The Passion. Alors là, retournez-y, mes enfants, retournez-y. Il se peut que sur certains sites qui ne sont pas des sites officiels, on voit le mot Passion. Mais le titre officiel, c'est The Passion. C'est très important.
Oui.
Allez, donc, je vais vous donner quelques indications. Soit après, vous irez sur les sites officiels et vous allez voir comment c'est fait. Bon, enfin, c'est absolument remarquable. Et ce jeune acteur, Jim Caviezel, il a maintenant 34 ans. Et quand Mel Gibson l'a appelé l'année dernière, au printemps dernier, pour lui faire jouer le rôle, il avait 33 ans.
Ah,
c'est curieux quand même. Oui, bah, enfin, chacun pense ce qu'il veut de ça. Ce sont, appelons ça, des coïncidences. Coïncidence extraordinaire, c'est aussi que l'actrice qui joue le rôle de la mère du Seigneur, donc une actrice roumaine d'origine juive, qui est roumaine d'origine juive, qui s'appelle Maya Morgenstern. Morgenstern, pour nos amis auditeurs qui ne sont pas germanophones, c'est l'étoile du matin. Morgenstern. Stella Matutina. Sur le tournage, des guérisons miraculeuses.
Bon.
Des guérisons miraculeuses. Il y a un sourd qui a entendu, il y a un muet qui s'est mis à reparler, il y a une petite fille qui était la fille d'un couple de l'équipe de tournage technique, 6 ans, pour petite gamine, elle était épileptique depuis la naissance. Elle est plus épileptique. Un technicien reçoit au moment de la scène où ils étaient en train de tourner la montée au Golgotha, qui est une scène qui a duré, je crois qu'on a tourné pendant 15 jours cette scène, c'est vous dire si Gibson est un perfectionniste, frappé par la foudre. Ah oui, tenait des machins métalliques, hein, des perches ou je sais pas, frappé par la foudre. Bon, le type se relevait, puis est reparti à son boulot comme rien. Enfin, c'est, y a quand même des choses qui sont tout à fait surprenantes.
Intéressant.
Voilà, donc alors deux prêtres qui sont deux amis, dont un va venir s'exprimer sur Radio Courtoisie au mois d'août, que j'essaie de retrouver la date pour que nos amis aient l'amitié de noter ça sur leur petite tablette. Ce sera le 27 août. Voilà, il sera là. C'est l'abbé Michel de Bourges, qui est un prêtre de l'Institut du Christ, roi souverain prêtre de notre ami Gilles Vac, qui va venir nous parler de tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a pu échanger avec Gibson et son comédien principal, Caviezel, qui est un catholique de première classe avec Palme. Il est avec son épouse sur le tournage, évidemment, entre les prises, entre ce qu'on appelle les prises au cinéma, quand on vous filme, bon, il y a un moment où il y a des pauses, mais il récitait son chapelet avec son épouse, vous voyez. Eh oui, hein.
Eh oui.
Ça vous la bouche, ça, quand même,
oui,
hein,
oui,
vous qui êtes d'une piété, quand même, enfin, légèrement, attiédie, quoi, hein.
Mmh,
voilà, alors moi, tout ça me passionne.
Pas du tout, moi.
Alors, J'ai commencé dans mon hebdomadaire légitimiste là, à parler de ça. J'ai fait déjà deux papiers. Un papier qui est un papier d'ordre général, qui présente le film, ce qui s'est passé déjà, ce que j'ai appris, ce qui s'est passé sur le tournage du film. Il y a des choses absolument prodigieuses. Et beaucoup d'interviews de Mel Gibson, beaucoup de témoignages. Et puis dans le deuxième article que j'ai écrit, qui vient de paraître, là c'est le numéro qui est arrivé ce matin, là il y a le témoignage de l'abbé Michel de Bourges. Évidemment c'est un témoignage plus simplifié que tout ce qu'il va nous dire, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas dire dans un article. Et le début d'un long papier sur l'affaire de la passion aux États-Unis, parce que ça a vraiment déchaîné, et c'est un petit peu normal. Hein.
Puis c'est pas terminé.
C'est pas terminé du tout. Hein. Ça a déchaîné une passion absolument invraisemblable. Invraisemblable. Alors, tout le monde, c'est une bagarre absolument hystérique aux États-Unis. Alors, ça va bientôt arriver en France. Il faut comprendre que d'ici la rentrée ou à la fin de l'année, évidemment, cette polémique va être relayée par un certain nombre de journaux ici chez nous. Et ben, il faut se préparer à y répondre. Il faut se préparer à recevoir le film comme il doit l'être. C'est-à-dire un film miraculeux. C'est un véritable miracle. Alors voilà, donc si vous souhaitez recevoir les deux premiers grands papiers qui ont été faits sur ce film, avec des illustrations d'ailleurs, des témoignages, enfin plein de choses intéressantes, eh bien il faut envoyer, alors pour recevoir ces deux numéros de l'hebdomadaire légitimiste, qui sont les numéros 363 et 364, il faut envoyer 5 euros, K-E-U-R-O,
à légitimiste. À quelle adresse?
Ah ben voilà la bonne, c'est 22... C'est 22 rue Didot, D-I-D-O-T, 75-014 Paris. Voilà, vous recevrez les deux premiers numéros. Et puis après,
bah, on peut téléphoner pour l'obtenir?
Oui, on peut téléphoner, mais il faut mieux... je veux bien, mais enfin, c'est préférable d'envoyer de l'argent d'abord. Parce que on peut téléphoner au 01 45 41 29 29. 01 45 41 29 29. Voilà. Un numéro qui commence à être un petit peu connu, voilà. Vraiment, j'insiste beaucoup, hein. Il faut que nos amis auditeurs comprennent que la France est un pays très particulier, que c'est le cœur...
5 euros, c'est pour recevoir
c'est
le
franco,
un numéro.
Les deux numéros, 5 euros et les frais.
Et si on veut s'abonner?
Alors si on veut s'abonner, on peut faire un tarif spécial. Allez, on dit 10 euros pour 10 numéros. Sachant que la série de ces articles va durer, à mon avis, au-delà de l'Assomption. Hein. Je pense que, comme c'est un hebdomadaire, on en aura certainement jusqu'à la fin du mois d'août, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Voilà. Et que les auditeurs sachent que tout ce qui est raconté dans ces journaux nous vient des meilleures sources. De sources à nous, d'outre-Atlantique. Car Mel Gibson n'a pas que des adversaires aux États-Unis. Il a beaucoup, beaucoup d'amis. Voilà, donc c'est un catholique très très fervent, on le savait, on en avait déjà entendu parler dans certains journaux, mais il est, vous verrez, si vous avez la patience, si vous demandez ces numéros, vous allez voir déjà le témoignage de l'abbé Michel de Bourges, et puis si vous avez la patience d'attendre le 27 août, eh bien vous aurez l'abbé Michel de Bourges ici même, dans ce studio, où il répondra à toutes les questions des auditeurs sur ce film absolument prodigieux, qui est un film, comme sur notre Serge Ducris, comme jamais on en a tourné un. C'est une chose unique. Et qui a coûté beaucoup de sous, je dois dire, on me dira, voilà qui parle de sous, oui, je parle tout le temps de sous, qui sont sortis d'ailleurs de la poche de Mel Gibson, comme chacun peut s'en imaginer, peut l'imaginer. Ce n'est pas à Hollywood qu'on peut trouver des financiers pour ce genre de film. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Bon, donc il a sorti 25 millions de dollars de sa poche. C'est quand même joli, 25 millions de dollars, c'est pas une petite somme. Hein.
Mais il n'aurait pas pu tourner sur les lieux mêmes.
C'est impossible, absolument impossible. Dans le climat actuel, c'est strictement impossible. Mais pour vous dire des choses tout à fait extraordinaires, il a pris beaucoup de figurants dans la population de Matera. Le quartier où il a tourné est un quartier qui est vide d'habitants. Hein. Mais il y a une petite ville qui doit faire je sais pas, 800 000 habitants. Ou 1000 habitants, la toute petite ville. Et en tournant le film, il a demandé évidemment aux gens locaux de venir prêter, d'être les silhouettes pour le film, ou les figurants, etc. Et ça a été très très dur, parce que quand les gens voyaient passer l'acteur Jim Caviezel sortant de... C'est un film avec des effets spéciaux, c'est un film très très dur. Rien ne nous est épargné.
Oh là là.
La flagellation, la crucifixion, les coups, on voit tout. Et on comprend ce que le Seigneur a souffert pour notre propre rédemption. Bien. Ce que coûtent les péchés qu'on fait tous les jours. C'est une image, évidemment, c'est du cinéma. Hein, c'est du cinéma. Mais c'est un cinéma qui va faire beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Et évidemment, le pauvre Jim Caviezel traînait sa croix, il l'a tiré pendant 15 jours. Pendant 15 jours, on a tourné la même séquence. À tel point qu'il s'est déboîté l'épaule. C'est déboîter l'épaule, l'acteur principal s'est déboîté l'épaule. Tellement la croix était lourde, parce qu'on a mis une vraie croix, aussi lourde que celle du Christ.
Pas simplement le petit bulle.
Non, la croix intégrale. Complète. Aujourd'hui, on en est arrivé à la certitude que c'était la croix complète, que seuls les deux larrons portaient le petit bulle, mais que le Seigneur portait la croix entière. Bon. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, Louelle. Ce sont les historiens qui disent ces choses-là. Eh bien, quand on a été obligé de retourner beaucoup, beaucoup de fois toutes ces scènes, parce que quand...
Ah Oui.
Il passait avec sa croix. Les habitants de Matera, au lieu de huer ou de regarder ou de faire des signes, tombaient à genoux. C'est des Italiens pieux, ils tombaient à genoux. Ils faisaient pas la différence, un peu comme chez nous, pendant les scénographies des passions au Moyen-Âge, où les fidèles catholiques qui venaient assister aux passions sur les parvis des cathédrales étaient tellement sidérés par ce qu'ils voyaient, qu'ils croyaient vraiment qu'on revivait la passion et que le pauvre Judas devait généralement avoir des habits rembourrés parce qu'on lui jetait des cailloux, des fruits pourris, etc. Parce que c'était bon, les gens ne faisaient pas du tout la différence entre la scénographie et la réalité. Bien là, ça se repasse. C'est très très curieux de voir que 1000 ans ou 14 siècles plus tard que les scénographies des passions, les gens sont à peu près dans les mêmes dispositions. Voilà. Donc, Mel Gibson, donc messe tous les jours, hein, confession tous les jours, sainte communion tous les jours, et pareil pour l'acteur principal. Ouais. Il y a eu des conversions,
Quand est-il prévu qu'il sorte?
Alors, aux États-Unis, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a pas vraiment un distributeur, mais il avait un contrat de distribution avec une grosse compagnie qui s'appelle la 20th Century Fox, qui est un des 8 grands distributeurs américains. Et pour l'instant, la date est encore un peu hypothétique. Il y a un contrat, mais bon, on va voir si ça va passer. Moi, je pense que ça va passer. Mais ce serait soit entre avril et juin pour les États-Unis. Et puis, bon, pour l'Europe, pour la France en particulier, ça arriverait un peu plus tard, peut-être en septembre ou en décembre.
De l'année prochaine, alors.
Ah, de l'année prochaine, oui. Pas de cette année. Pas de cette année, là.
Voilà.
Bon, le problème, c'est le problème de la distribution. Vous comprenez qu'un film pareil, déjà, il faut le financer. 25 millions de dollars, c'est ce que Gibson a sorti de sa poche, mais ça coûte beaucoup plus cher parce que sa maison de production qui a aussi sorti de l'argent, donc ça tourne autour des 40 ou 41 ou 42 millions de dollars. C'est beaucoup de sous, c'est vraiment beaucoup de sous. Bon. Et puis une fois que le film est dans la boîte, faut le monter, donc ça s'appelle la post-production. Là, ça coûte encore des sous. Et puis après, il faut trouver le distributeur pour le projeter dans des réseaux où les gens puissent aller facilement le voir. Si vous prenez faire 400 km pour aller au film, mais non, ça va poser des problèmes. Voilà.
Très bien.
Voilà ma petite Victoria. Donc, alors, si vous voulez commencer à comprendre, j'insiste beaucoup, la France étant pour moi le nœud des dévergondages démoniaques, c'est évident que la prochaine vague de critiques contre le film, parce que là, aux États-Unis, il s'en sort pas trop mal, c'est très dur, mais il s'en sort bien, ça va être ici. Donc, je crois qu'il est préférable, pour une fois, d'être un petit peu prévenu à l'avance et de commencer à s'y préparer. Le mieux, c'est de savoir ce que c'est que ce film et quelle est toute cette affaire, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont les personnes qui ont trempé, etc. On apprend beaucoup, beaucoup de choses. J'ai vraiment travaillé avec des collaborateurs américains, on a beaucoup travaillé sur les papiers et c'est vraiment le résultat est tout à fait formidable. Donc voilà, donc pour 5 €, vous avez 2 numéros. Donc le point de vue général sur le film, puis le début de l'enquête sur l'affaire
de la passion, de la polémique,
oui, c'est une polémique très très dure. Et donc ça vous coûte, on l'a dit, 5 €, c'est ça, donc à Légitimiste, 22 rue du Loup, Paris 14e, et puis si vous voulez, vous envoyez 10 €, vous aurez 10 numéros, et c'est encore moins cher. Et alors, parce que 10 numéros, il va nous falloir au moins ça pour faire tout ça.
Et notre auditeur dit « persiste et signe ». Il nous dit « il suffit d'aller sur le site www.passion.movie.com ».
Oui.
Et contrairement à ce que dit Daniel Amiche, il est quand même question d'ajouter des sous-titres. Mais la question n'est pas encore tranchée.
Voilà, donc il n'est pas question d'ajouter des sous-titres, c'est une question qui est posée. Actuellement, Mel Gibson procède à des projections privées. De ce qu'on appelle le rough cut, c'est-à-dire le montage séquence par séquence, mais non véritablement monté. Il y a effectivement des sous-titres dans ce qu'on montre au public, et là il interroge les gens, faut-il, ne faut-il pas?
Oui.
N'a-t-on pas besoin de sous-titres? Bon, je pense évidemment qu'on n'a pas besoin de sous-titres. C'est absolument pas possible.
Non,
sur ce site passion-movie.com, là dont vous parlez, qui est le site d'un adepte de Mel Gibson, qui est un site très bien fait. Moi, je suis allé cet après-midi, je suis allé voter. Bon, on parle de passion, mais la bande annonce, enfin ce qu'on appelle le trailer, c'est-à-dire la pré-bande annonce, ça dure une 35 secondes à peu près, 40 secondes, peut-être 40 secondes, c'est très long à télécharger parce que ça fait 22, 23 mégas, bon. C'est bien The Passion. Enfin, ça se termine vraiment comme ça. C'est The Passion, a film by Mel Gibson. Voilà. C'est bien The Passion. Et je crois que Mel Gibson tient beaucoup à cet article qui est relativement rare en anglais et qui est très emphatique quand on le met devant un substantif. C'est qu'on veut insister. The Passion, ça veut dire la passion. La passion et pas passion. Voilà, oui.
Alors, Mel Gibson s'est inspiré des écrits de Maria Valtorta.
Non, pas du tout.
Cet auditeur.
Non, il a eu beaucoup de sources, évidemment. Bon, d'abord la Sainte Écriture, ensuite ce que la piété populaire admet communément comme lecture spirituelle pour exciter la contrition sur le péché qui nous a obligés, qui a obligé le Christ à offrir sa vie. Oh, Félix culpa, comme dit la liturgie. Donc, en fait, les deux textes, c'est évidemment c'est Anne-Catherine Emmerich et Marie d'Agreda. Donc Anne-Catherine Emmerich, c'est donc fin du 18e, début du 19e, très grande, une bonne sœur, alors stigmatisée, quelque chose d'extraordinaire, et Marie d'Agreda qui est aussi une mystique, une ascète qui elle est du 17e siècle, qui est une espagnole.
Et une auditrice nous assure qu'une personne ayant vu le film en privé aux USA...
Très bien, oui.
Aux États-Unis, pardon, s'est écrié à la fin du film « Jésus, je suis désolé, j'avais oublié ».
C'est tout à fait vrai. Je cite, je remercie alors cet auditeur ou cette auditrice parce que je publie dans la première étude, donc le numéro 363 légitimiste, le témoignage entièrement traduit de cette personne qui n'est pas n'importe qui. Je ne savais pas qui c'était à l'époque. C'est une dame qui travaille à Hollywood et qui est dans une espèce de cabinet où on fait les scénarios, on rédige les scénarios catholiques. Elle est l'Alima Forum qui s'appelle Church of the Bass aux États-Unis, donc c'est des forums de discussion entre cathos. Et elle a fait un témoignage le soir même, revenant de cette projection privée qui a eu lieu donc à Los Angeles. Elle a fait un compte rendu absolument extraordinaire. Je veux pas tout dire, hein, mais allez-y voir, lisez-le, c'est formidable. Et tout à fait, elle a raison. Rentrant chez elle en voiture, ce film l'a tellement bouleversée qu'elle a eu une contrition. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres films dans l'histoire de la cinématographie où, après avoir vu ce film, on a une contrition, une vraie contrition au sens chrétien.
Il y a un auditeur vous demande de répéter quels sont les deux numéros qu'il faut commander.
Ben c'est le
numéro combien et combien ?
Le 363 et le 364. Je fais un peu de pisté, mais là, pour le coup, c'est pas vraiment parce que j'ai besoin de 5 euros. C'est parce que c'est vraiment pour la bonne cause. Il faut vraiment préparer l'opinion publique catholique à ce film, qui est un film, c'est un miracle.
Rudido.
22 Rue Didot, Paris 14e.
Voilà, ouais. 14e. C'est parti.
Voilà, c'est le 01 45 41 29 29.
Bon, et puis alors, quelqu'un vous demande.
Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, et aussi du film The Passion de Mel Gibson, de la passion de Mel Gibson, et qu'on peut aussi téléphoner à cette station. Vous connaissez le numéro de téléphone par cœur, vous ? Non ? Il ne faut pas le redire, le numéro de téléphone. Si, il faut le redire. Il dit qu'il faut le redire. Allez,
donc,
hop.
Le numéro
de téléphone.
46 51 00 85, le numéro
avec
d'ici.
Voilà, avec le 01 devant.
Forcément devant. Voilà. Non, j'étais dans mes papiers, moi je vous le disais. Un auditeur vous demande, je ne sais pas pourquoi, que signifie patibulum.
Le patibulum, c'est...
Je vous prononce comme j'en prononce
dans,
au lycée.
Dans la croix, il y a le stipes qui est la poutre verticale, et le patibulum qui a donné patibulaire d'ailleurs, hein, qui est la barre horizontale sur laquelle, bon... On pâtit, on souffre. Bon, d'abord, parce qu'il faut la porter. On souffre de la porter. Et ensuite, on est soit cloué dessus, soit attaché dessus. Et là, le Seigneur a été cloué sur la partie, le patibulum, et aussi sur le stipes de la croix.
Est-ce qu'il y a quelque chose des travaux de Barbet? Enfin,
oui, parce que je pense que, moi, j'ai vu d'après une citation de Mel Gibson, voyant l'acteur Jim Caviezel sortir des studios de maquillage, oui, c'était 6, 5, 7 heures de maquillage, parce qu'il avait toutes les blessures de la flagellation, de toutes les horreurs qu'il a supportées. Et un jour, il le voit, la première fois qu'il sort du studio de maquillage, il regarde, il fait « c'est le linceul de Turin ». Donc, ça veut dire aussi que je pense que Gibson a beaucoup, beaucoup médité sur le linceul de Turin, qui est quasiment ce qu'on pourrait appeler le cinquième évangile, je mets des guillemets, parce qu'évidemment ce n'est pas un évangile canoniquement retenu, mais qui nous permet de comprendre, nous savons le nombre de coups de fouet que le Seigneur a reçu, l'intensité des coups de fouet, enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Voilà, tout à fait extraordinaire. Alors d'autres invités sont arrivés. Je vous en prie, venez, mon bon camarade. Voilà, mais asseyez-vous là, monsieur. Alors d'autres messages. Alors je signale, attendez, je suis pas le seul à en avoir parlé, hein, je veux dire, je suis pas le seul journal à avoir parlé de ça. Bon, il y a déjà eu pas mal de petits échos dans la presse, notamment d'ailleurs dans le dernier livre journal de Serge Beketch, un article un peu polémique mais extrêmement amusant sur un certain nombre de tenants et aboutissants de la polémique, dont vous comprendrez d'où elle vient, évidemment. Il y a eu également un interview de Mel Gibson qu'il avait donné au mois de janvier ou de février en Italie, donc c'était dû à Rome, ça, dans les Ciudad de Cita, à l'agence Zenith, et qui a été reproduit dans le dernier numéro, ou l'avant-dernier numéro de la Nef, là, celui d'avant les vacances. Il y a eu des petites annonces dans 2-3 journaux, il y a même eu un article dans Le Monde, enfin, etc. Mais là, j'insiste beaucoup, ça va être le premier dossier absolument complet, enfin absolument le plus complet possible en français, tout étant traduit par les soins de notre petite officine de la rue Didot, sur le film, avec une chronologie, enfin une narration de l'affaire qui n'est pas vraiment chronologique, parce qu'évidemment je pars à certains points, puis je vais remonter, puis je vais redescendre, qui va tout nous dire jusqu'au mois d'août, parce qu'il y a évidemment de l'événement et de la nouveauté chaque jour. Chaque jour, quelque chose arrive. Oui.
Voilà. Bah, je vous envoie justement une interview, mais en anglais, donc je ne vous la lirai pas.
Ah bah écoutez, on va regarder
non,
ça
non,
tout
non,
on va voir si, si on l'a. Oui. Ah, voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup à cet auditeur qui nous envoie le texte en anglais, qui est traduit en français, pour nos éditeurs qui ne parlent pas l'anglais, dans le numéro 363 du Légitimiste, sous le titre « Elle a vu la passion », et en anglais c'est « I saw the passion ». Voilà.
C'est parfait.
Avec les dates et tout ce qu'il faut. Merci beaucoup à cet auditeur. Je l'avais déjà 40 fois, mais c'est bien de l'avoir. Ça montre surtout que vous commencez aussi à vous mobiliser pour ce film, et je ne peux que vous en féliciter, cher ami auditeur ou auditrice. Voilà, oui.
Ben, autrement, non, il y a un auditeur qui essaie de me pousser
à quoi
dans
faire
les vis. Je m'étonne.
Il n'y a pas besoin de vous pousser beaucoup.
Je m'étonne que Victoria n'ait pas repris Daniel Amiche. Vous voyez que moi, je me suis retenue. On dit le mois d'août et non le mois d'août.
Ah, oui, d'accord. Ah ben, moi, j'ai out. Voilà. Mais ça vous le fait
toujours. Mais je ne l'ai pas dit.
Non, c'est curieux.
Je ne me bats plus. J'ai renoncé à me battre.
Ah, ça m'étonne de vous. Votre bienveillance, votre longanimité, votre longanimité m'époustoufle.
Mais ben, c'est normal.
M'époustoufle, ma petite enfant adorée.
Voilà, bon, voilà. C'est tout pour les auditeurs.
Bon, très bien. Alors, nous passons d'abord, nous saluons l'arrivée dans le studio. Alors, j'ai déjà dit que notre bon camarade docteur Xavier Dor était président de l'association SOS Tout Petit, était déjà dans le studio. Puis, je salue la présence de Marie-Luc Advar, qui elle est déjà venue, hein. C'est la deuxième, troisième, quatrième.
Bonjour, Daniel, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes venu déjà souvent ici.
Je ne suis pas une vieille, non. Deux fois seulement. Et
seulement.
Là, ça fait la troisième fois. Mais oui.
Donc, c'est la troisième.
C'est la troisième.
Vous avez 203.
J'avais 203.
Il n'y en aura pas quatre. Et puis alors.
Oh là.
Et Guillaume Clausier, qui lui est le étudiant, toujours étudiant, vous, hein.
Étudiant.
Vous êtes venu, vous, déjà, non?
Je suis venu une fois, il y a 3 semaines, avec l'abbé Laurence.
L'abbé Laurence. Parlez bien, il y a une espèce de petit ronronnement. Voilà, faut parler le plus près possible du micro. Ah, bon, d'accord. C'était pas avec moi, alors.
Vous m'avez
trahi, hein. Alors, vous êtes le président de l'association Juventas Christi, ou Juventas.
Exactement.
Christi.
Juventas Christi.
C'est ça. Et je regardais avant-hier soir, pour la énième fois, je sais pas combien de fois j'ai vu ce film, c'est L'Auberge Rouge. Et j'aime beaucoup regarder Fernandel dans les rôles de prêtre ou de, bon, là il était prêtre, un moine prêtre. Parce qu'il prononce le latin, ce qui est valable aussi dans la série des Don Camillo, mais il le prononce comme on le prononçait jusqu'aux années 50. Il dit Dominus
Vobiscum.
Vobiscum. C'est très très rigolo, ça. C'est très récemment qu'on prononce l'italienne.
Au lycée, on prononçait
Dominus
Vobiscum.
Oremus.
J'avais un de mes voisins qui était au séminaire et qui lui disait Dominus Vobiscum.
Ah oui,
bah
déjà.
Et après, il y avait des grandes discussions sur la prononciation avec lui, justement.
C'est très curieux tout ça. Ouais, excusez-moi, c'était une petite
incident.
Monsieur l'abbé, monsieur le docteur, pardon, monsieur l'abbé, le docteur d'or.
Oui, excusez-moi, on a la certitude que les latins prononcent bien où, parce que la tourterelle, en latin, se dit, s'écrit et se prononce tourtour. Or, si vous l'écrivez en français, c'est turture.
Turture.
Donc, je dirais, comme c'est une onomatopée,
oui.
Il est certain que les tourterelles ne disent pas turture. Elles disent plutôt tourtour.
J'essaie de vous le faire, là.
Tourtour. Alors, c'est une. Les onomatopées servent beaucoup, finalement.
Ben voilà.
Pour le vrai langage.
Comment prononçait, en tout cas, à Rome.
Oui, à Rome, voilà.
Parce que comment est-ce que les Syriens prononçaient le latin? Ça, Dieu seul le sait. Voilà, donc vous êtes le président de Juventus Christi.
Juventus Christi.
Christi, donc, et puis vous allez nous parler avec la chère Marie-Luca Debar, qui est membre de votre association.
Exactement.
De ce camp d'été que vous faites, là, pour reconstruire une chapelle.
Voilà.
C'est très bien. Vous voyez, les Américains tournent des films sur notre Seigneur, les jeunes Français créent des chapelles, eh bien, nous aurons des chapelles pour projeter le film de notre ami américain. Voilà. Très bien, oui, il y en a pas. Alors, docteur, mon cher docteur, là, je vous écoute un peu parce que c'est pas parce que nous sommes en été, parce que là, il fait chaud, que il faut se croiser les bras. Et les périodes de l'été qui sont, on dit, des périodes de trêve, de vacances, de farniente, pour les avorteurs, c'est pas des périodes de vacances, de trêve et de farniente. Hein. On tue autant d'enfants l'été qu'on en tue l'hiver, malheureusement.
Vous parliez de passion, et bien sûr, je pensais bien sûr à ce que vous disiez, et bien sûr. Mais il y a aussi toutes, on ne peut pas dire les petites passions, mais les passions des petits. Et mon Dieu, qui est innombrable, c'est certainement beaucoup plus de 1000 par jour. C'est en France, rien qu'en France. Je pense que dans le monde, ce sont des chiffres par million. Enfin, donc, on ne quitte pas la passion, finalement. Je voulais dire un mot, puisque nous sommes maintenant, nous allons à Paris, nous allons souvent devant les... Chaque mois, sauf en été, nous allons devant le Grand Orient. Et hélas, tout le monde sait que c'est la franc-maçonnerie qui est derrière ces cultures de mort, que la loi Veil, toutes ces lois, que la loi Neuwirth, toutes ces lois sont des lois maçonniques, la loi Aubry.
Oh, mais je pensais que... Non.
C'est certainement.
La franc-maçonnerie, c'était une association de philanthropes.
De philanthropes, je dirais, pour la galerie, bien entendu, mais certainement pas. Et alors, l'actualité, c'est celle de ces visites que tout le monde a pu voir dans la presse, qui se sont déroulées autour du 24 juin. Alors, il est assez intéressant.
Ah, nous en avons parlé, mon cher ami, dans Le Légitimiste.
Ah, très
bien. Nous avons même reproduit l'allocution que le président de la République a fait devant tous les principaux responsables des loges, etc. Nous avons publié intégralement, avec quelques commentaires, intégralement, sans couper, parce que c'était trop beau. Et la chose s'est reproduite quelques jours plus tard, le lendemain ou le surlendemain, au ministère de l'Intérieur, où le bon monsieur, d'ailleurs, monsieur Sarkozy, qui est un homme très très, très actif, bien comme il faut, a dit aux frères qui venaient le voir qu'ils étaient au ministère de l'Intérieur chez eux. Ce qui est une façon gentille de dire les choses comme elles sont.
Oui.
Et puis mais aussi au ministère des Affaires étrangères, où M. de Villepin dit les mêmes choses.
Parfaitement. Et à Matignon, enfin, vous avez dit. Et alors, je ne sais pas si dans votre article, je ne l'ai pas lu, mais est-ce que vous avez peut-être remarqué cette date du 24 juin qui est particulière, car c'était le 24 juin 1717 que se sont réunis à la taverne, je crois, des trois pommiers, je ne sais plus.
C'est bien le 260.
Ça
tombait pas très juste, d'ailleurs.
Je parle de 1717, là.
Oui, oui.
De 1717, parce que je parle d'Anderson et de Singulier.
Eh bien, ça fait 275...
Et alors, les 275... Alors, pour la maçonnerie française.
Française.
Mais la maçonnerie anglaise, donc la fondatrice, elle est bien du 24 juin. Et alors, c'est assez curieux, parce que c'est le solstice d'été, et je pense qu'il faudrait leur demander. Nous avons Noël, le solstice d'hiver, et eux ont le solstice d'été. Ils ont la Saint-Jean. C'est le point culminant du soleil, mais après le jour décline. Je pense qu'ils ont choisi ça à cause des lumières. Enfin, j'imagine, j'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas exactement dans leur... je ne suis pas initié, bien entendu. Et donc, enfin voilà, on peut noter que le 24 juin les intéresse. Alors c'est à ce moment-là qu'ils se sont manifestés à l'Élysée, à Matignon, à la place Beauvau, tout ça.
Oui.
Voilà. Et alors, donc on peut remarquer évidemment que Chirac, c'est une allégeance totale de tous ces... du président, du président de la République, du Premier ministre, enfin des grands ministres, tout ça. Je crois que nous sommes véritablement dans les mains des francs-maçons. le nier serait, je ne sais pas, enfin, ne pas voir midi en plein jour. Et je pense, sans exagérer, que le Parlement n'est qu'un organisme de, finalement, d'enregistrement. Alors, il y a évidemment un petit peu de jeu tout autour, un peu d'habillage, quelque chose comme ça. Mais, en gros, et dans le fond, c'est évidemment la maçonnerie qui nous tient, je dirais.
Alors, qu'est-ce que vous. Alors, ça, nous sommes d'accord sur le constat, mais qu'est-ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est
alors, je voudrais dire ceci, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce pouvoir est un pouvoir diabolique, satanique. Car, a-t-on réfléchi à ceci? Est-ce qu'actuellement, on peut avoir le pouvoir sans tuer les plus petits? Et admettez un instant que parmi SOS tout petit, il y a des candidats pour la présidence de la République, je dirais, mais ils n'ont aucune chance. Je dirais, même si on ne tue pas les plus petits, il faut au moins accepter de les tuer et faire en sorte que ce soit fait, que ce soit remboursé. Je dirais, tout va bien pour ça, n'est-ce pas? Et si vous ne pouvez pas avoir de pouvoir sans l'avortement, ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Nous sommes dans un monde effrayant où il faut que l'enfant meure. Et je dirais, si c'est pas diabolique, bon, il faut aussi que les, vous avez bien vu que les homosexuels se marient, n'est-ce pas? Enfin, je dirais, voilà, on peut résumer la chose encore de façon plus simple. C'est que finalement, quel est le moteur des francs-maçons? Ce n'est pas la grâce, bien entendu, c'est tout le contraire. Pour eux, c'est le refus de la grâce. Mais alors, quel est leur moyen? C'est évidemment la pesanteur. Et le moteur même des francs-maçons, c'est la pesanteur. Mais vous direz, mais qu'est-ce que la pesanteur? La grâce, c'est très facile à définir, je crois, c'est l'amour, c'est l'intérêt que Dieu porte à sa création. Il a donné sa vie pour nous, on vient d'en parler. Donc, il nous aime et nous, nous l'aimons, nous dépendons de lui. Mais la pesanteur, qu'est-ce que c'est? On ne dépend que de soi-même. Et, n'est-ce pas? C'est dire, c'est le moi. Et c'est le culte du moi. Je crois qu'on peut résumer la religion maçonnique par le culte du moi. C'est-à-dire que ce n'est pas autre chose que le péché originel.
C'est le culte de l'homme qui se fait Dieu, en fait.
C'est le culte de l'homme qui se fait Dieu. Et au fond, le fond d'exploitation, de même qu'on dit que là, souvent, pour les judaïques, enfin, ils exploitent la Shoah, de même, on pourrait dire que je parle des mauvais judaïsants, d'autres exploitent, ça encore c'est un sacrifice horrible, n'est-ce pas, enfin, mais là ils exploitent une chose horrible qui est le péché originel, c'est-à-dire le rejet de Dieu, n'est-ce pas? Et alors là, évidemment, c'est Satan donne le pouvoir, puisque l'égoïsme, l'apesanteur, a un poids considérable par définition.
Alors dites-nous, pour l'amour du ciel, docteur, parce que oui. Ça, nous en avons déjà parlé des dizaines de fois, on en reparlera encore des dizaines de fois maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous alors, ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Vous avez des besoins.
C'est vrai, c'est vrai.
Parce qu'on dépense pour la propagande, pour le téléphone, pour les timbres, autant de sous en août que dans les 11 autres mois de l'année.
C'est vrai.
Les associations comme vous, besoin, ça, vous n'avez vrai. Pas, vous êtes subventionné, vous n'avez pas de subvention.
Non, ce serait plus au contraire, n'est-ce pas? On nous a retiré, je ne sais pas combien par centaines de mille de francs en nouveau, n'est-ce pas? Et non, nous sommes plutôt ponctionnés que subventionnés. Ce serait plutôt le contraire. Et nous avons de grands besoins à l'imprimerie. Parce que on diffuse pas mal de tracts, des autocollants qui marchent très bien, mais actuellement nous sommes un peu, on n'imprime plus parce qu'on a, la caisse est un peu vide. Alors si on pouvait nous aider de ce point de vue-là. Mais quand même, je voudrais juste avant
il faut vous aider. Tant pis, vous me permettez, je vous interromps, parce que vous êtes vraiment, vous avez un sens du marketing, je dois dire, qui mériterait quand même de repasser par les écoles. Alors je rappelle que le docteur Xavier Doré est le président de SOS Tout Petit, qui a besoin de sous. Voilà. Alors, SOS Tout Petit, c'est 11 rue Tronchet, Paris 8e. 11 rue Tronchet, Paris 8e. C'est pas compliqué. Vous acceptez tout depuis 2 euros, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1000 euros,
plus si les gens sont très généreux, je sais pas. Mais voilà, laissez-moi terminer sur le sujet, parce que c'est très court. Je rappelle une histoire que j'ai peut-être déjà dite ici. Nous étions en train de dîner, et puis la question de l'islam se pose, enfin tout le monde en parle, et puis mon voisin de gauche, qui est un ancien conseiller d'État, dit ceci: oh, ce n'est pas tellement l'islam qui me paraît dangereux, et Dieu sait, mon Dieu, si elle l'est. Non, c'est le mondialisme. Ah, je dis, qu'entendez-vous par mondialisme? Il a réfléchi un instant, il m'a dit, oh, c'est l'individualisme. Eh bien, je crois que les francs-maçons qui refusent tout dogme, n'est-ce pas? Un franc-maçon vous dira, les dogmes, je n'en veux pas. Mais toute la maçonnerie repose sur un dogme, c'est celui de l'individualisme. C'est-à-dire, moi d'abord, je n'obéis qu'à moi-même. Voilà. Ça, je crois qu'on peut. Alors, vous pensez bien à la liberté, l'égalité, la fraternité là-dedans. La liberté, c'est le moi, c'est l'arbitraire. Je fais ce que je fais, non parce que je dois. L'égalité et la fraternité, vous pensez bien que le moi d'abord, ce n'est ni égalité ni fraternité, bien entendu. C'est la mort des plus petits, c'est tout ça, enfin, tout le cinéma qu'on nous passe.
Vous reprenez, l'association SOS Tout Petit reprend quand ses prières de
alors, justement, nous
à
allons,
la rue Cadet
alors, nous allons rue Cadet. Oui, nous reprenons donc à la rentrée. Nous serons le 26 septembre. Le 26 septembre, c'est un vendredi, jour de la Passion. Le vendredi à 19h, donc métro Cadet. Et il faut rappeler cette phrase de Léon XIII, reprise par Pie XII, qui dit ceci, que c'est une secte maintenant qui est répandue partout. La phrase est de 1882 en ce qui concerne Léon XIII, est répandue partout et il ne suffit pas de la dénoncer, il faut aller lutter dans l'arène. N'est-ce pas? Et les termes mêmes sont repris par Pie XII. Alors, je voudrais dire aussi que je reviens de l'université.
Vous avez encore deux petites minutes.
Deux petites minutes, c'est très vite.
Sur Renaissance catholique, rapidement.
Renaissance catholique, très rapidement. Et le sujet, je ne sais pas si vous avez su le sujet de
cette université. La repentance, non merci.
Non, c'était l'Occident.
Ah oui, l'Occident.
La civilisation occidentale est-elle condamnée? Et la réponse donnée par Madiran, par Jean Madiran, qui a été remarquable, par De Légère, remarquable aussi, et elle était celle-ci.
C'est pas des petites pointues.
Vous avez deviné la. Vous avez. Ce ne sont pas les petites pointues. Vous avez deviné la réponse. Elle est condamnée. Elle est condamnée. Alors, est-ce que la civilisation occidentale est-elle la civilisation chrétienne? Nous on sait précisément parce qu'elle n'est plus chrétienne qu'elle est condamnée.
Elle est condamnée.
Et elle est très certainement condamnée quand on fait toutes ces horreurs. On ne peut pas vivre éternellement tête en bas, n'est-ce pas? Le bolchevisme a duré 70 ans, ce qui est déjà 70 ans de trop. Je pense que la maçonnerie vit des. Enfin, elle est à la tête du pouvoir depuis la Révolution française. Je pense. Alors, il y avait une
vous avez encore une minute, docteur.
Très intéressante.
Là, je vous sens repartir
de
sur un nouveau.
Très courte. Disons, mais enfin, c'est quand même curieux. Quand l'Empire romain, parce qu'il a pris, par exemple, l'Empire romain, est tombé en 395 avec la mort de Théodose, l'Empire était chrétien. Or, il est tombé. Alors. Et alors, tous deux ont dit ceci, s'il n'était pas encore, évidemment, Constantin, c'est 313, eh bien, il n'était pas encore chrétien dans son fondement. Alors, il l'était davantage avec Byzance, puisque il a duré encore jusqu'à la prise de Constantinople, n'est-ce pas? Mais, donc, il est intéressant de noter que malgré le fait qu'il était chrétien...
Vous avez dit la prise de Constantinople, mais il faudrait dire la libération de Constantinople.
Oui, par les turcs,
on dit ceci. Dans les livres, c'est marqué la prise de Jérusalem.
La prise de Jérusalem.
Bah, je ne sais pas, je me
suis dit. En
réalité, dans les livres, dans les manuels scolaires, on dit.
La prise de Constantinople, c'est 1453. Par les Turcs. Voilà. Par les Ottomans. Voilà. Donc,
par les Ottomans.
C'est bien. Alors, l'abbé Célier, il n'a pas encore percuté. Bon, il a pris le micro, sans mon autorisation. Bon, je voulais mettre en face de quelque chose qui est assez extraordinaire. Bon, c'est qu'on dit toujours la prise de Jérusalem par les croisés.
Oui. Godefroy de Bouillon, hein.
Ah ben c'est la libération de Jérusalem.
Ah, libération de Jérusalem.
Voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous.
Oui, il semble qu'il y a un grand poème qui s'appelle La Jérusalem délivrée, non?
C'est le Tasse, ça, c'est voilà. Le Tasse, oui, ouais. Bien sûr. Voilà, mais oui, mais c'est très important. Mais ce poème, qui le lit, mon cher camarade? Mais qui le lit? Expliquez-moi. Bon, alors encore
parce
une minute,
les
docteur.
Les seules bases, donc.
Docteur.
Alors, moralité, les seules bases de la civilisation ne peuvent être que chrétiennes.
Elle a toujours été. Oui, voilà. Non, mais c'est parfait, comme l'Europe, dont la constitution va être rangée. Tout ce qui est construit sur ça, de toute façon, ça ne sera pas. Donc, on est tranquille là-dessus.
Voilà.
Alors, un mot, docteur, encore.
Oui, un dernier mot.
Le dernier, hein.
Oui, le dernier, véritablement. C'est que,
je n'y crois pas.
Je l'ai peut-être déjà annoncé. Nous irons 7 fois devant le Grand Orient.
Avec trompette ou sans trompette?
Mon Dieu, les trompettes de Jéricho. Il faut que je demande à Jacques
Arnaud. Arnaud, oui, Jacques.
Sonner le. Vous pouvez le glas, enfin, ou la trompette en tout cas, la deuxième fois. Donc il va y avoir le 26 septembre, ça va être la sixième fois, et puis en octobre, je pense que ce sera fin octobre, ce sera la septième fois, et là, c'est dans les mains de Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne fais aucune prévision, mais tout est...
Mon cher docteur, il se passera certainement quelque chose, car comme disait le grand monsieur de Charette, rien ne se perd jamais. Alors, nos amis de SOS Tout Petit, président docteur Xavier Dor, repris de justice, relapse, enfin effrayant, bon, ont besoin de sous pour imprimer leur petit
trac.
Alors il faut leur envoyer un petit peu de sous. Je sais qu'il y a que ça énerve quand je demande de l'argent pour les tiers. C'est quand même rigolo, hein. C'est marrant, hein. L'argent finance toutes sortes, l'État finance toutes sortes de saloperies, et alors nous n'aurions pas le droit de manger de l'argent, de demander de l'argent pour nos copains.
Et puis,
donc, SOS Tout Petit, 11 rue Tronchet, Paris 8e. Vous pouvez envoyer ça sous enveloppe dûment affranchie. Si vous achetez un tas avec Marianne, paf, vous la collez la tête en bas. Et puis vous envoyez un petit chèque. 5, 10, 50, 100, 1000, plus si affinité.
Et venez, hein, venez dans la fosse au lion.
Venez. Voilà, mon cher docteur, ça y est, merci. On a fait notre petit truc, c'est très bien. Alors, vous allez être gentil, vous allez laisser la place à monsieur l'abbé Cellier, parce qu'il n'a pas de micro. Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant?
Attendez,
docteur, remettez, asseyez-vous. Ah. Il y a une question pour vous. Ah. Oh là 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 là, mais alors, une seule question, hein.
Non, mais c'est une question pratique. Nous attendons la venue du docteur Dor à Chartres. Va-t-il organiser quelque chose là-bas?
Oh mon Dieu, je cherche des correspondants un peu partout, et à Charles, je serais ravi d'y aller. Mais il faut que nous ayons les correspondants, il faut qu'on nous invite.
Donc il faut qu'ils vous écrivent.
Et s'ils nous invitent, on fait des réunions, on fait des manifestations, et ça, c'est, je dirais, nous sommes demandeurs.
Alors, on les aura, les bloches. Voilà. Bon, alors, très bien. Donc, merci beaucoup. Voilà l'adresse de SOS Tout Petit, 11 rue Tronchet, Paris 8e. 11 rue Tronchet, Paris 8e. Mon cher camarade Guy, vous avez pris la parole, mais vous savez, il faut signaler, parce que sans quoi, notre ami Franck, qui est au manège, il a les potentiomètres.
Oui, je sais.
Pour monter, descendre, etc., etc. Alors, si je ne vous passe pas la parole, et si vous la prenez comme l'abbé Cellier, de façon impromptue.
Non, pas du tout, alors, il répondait.
Oui, non, mais lui, d'ailleurs, mais l'abbé Cellier, c'est un malin, parce qu'il connaît toutes ces techniques. Il a pris le micro de Victoria, qui est en principe à peu près toujours ouvert.
D'abord, c'était pas le mien.
C'est pas le vôtre?
Non.
Bon, vous avez des messages rapidement, ma petite Victoria.
Ben, on revient alors très vite sur le film.
Ah oui.
Quel film?
La passion.
Daniel. Avez-vous dit vraiment que Mel Gibson était américain?
Il est américain.
Non, il est australien.
C'est absolument faux. Ah, je suis absolument désolé. Ça, c'est un sujet que je connais
par cœur. Il y a plusieurs auditeurs.
Il est né aux États-Unis. Il est parti quand il était tout petit. Il devait avoir 4-5 ans avec ses parents en Australie. Il est revenu aux États-Unis. Il avait 20 ans passé. Il a commencé sa carrière de comédien en Australie. C'est là qu'il a fait ses premiers films, etc. Là, c'est l'époque où il gagnait 25 000 $ à l'année. Enfin, truc comme ça. Maintenant, il dépense 25 millions de dollars pour faire un film sur la passion du Seigneur. C'est quand même très, très intéressant. Voilà, donc il est américain, il n'est pas du tout haussi, comme on dit.
A-U-S-I-E. Dans les opéras, nous dit cet auditeur, il n'y a pas de sous-titres et on comprend très bien.
Bah, évidemment, on connaît l'histoire.
Moi, je ne suis pas d'accord. Vraiment. Bon, je pense, nous dit cet autre auditeur, je pense qu'il ne faut pas qualifier de miracle une création humaine, même si elle est bonne.
Je sais pourquoi le Dieu peut opérer des miracles au travers de nos humbles personnes, sans difficulté. Fait ce qu'il veut, c'est le bon Dieu. Fait ce qu'il veut.
Et alors, bon.
Je vous assure que là, vous allez voir. À voir la façon dont les adversaires. Je mets un petit A pour ne pas parler de l'adversaire. Se déchaîne contre ce film. Ah, très bon signe. Voilà un signe, comme disait Saint Jean. Un miracle, comme diraient d'autres.
Alors, on vous précise que c'est bien. Il y a bien l'article pour la
passion. The passion.
Voilà.
C'est pas passion.
Bon. Et on vous pose une question. Chez les premiers chrétiens, les poissons se prononçaient-ils Pisces? Chaque lettre avait-elle une signification précise, comme dans un anagramme?
Non, ictus. Alors, oui, mais ça, c'est du grec.
J'ai demandé à monsieur l'abbé Cellier, qui va se faire un plaisir de nous donner la réponse complète.
Alors, monsieur l'abbé Cellier, rapidement, s'il vous plaît.
Donc, effectivement, comme l'a dit monsieur Amiche, hein, c'est pas piscis en latin, mais c'est ictus en grec. Donc c'était un camouflage, disons, et il dessinait le poisson, le camouflage de la foi chrétienne, donc qui signifie Jesus Christos Theou Huios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur. Voilà. Donc c'est un anagramme, ça,
Non, c'est la première lettre de chacun des mots.
Bah, c'est donc, alors, et comme ça donne un mot complet, ça s'appelle, il y a un nom particulier, ouais. ça s'appelle.
Vous pouvez écrire ainsi tout.
Mais ça
n'a pas d'importance.
On va l'envoyer en message. Un petit poème où il y a la première lettre fait aussi une signification.
Donc c'est pas ce qu'on appelle un sigle, c'est ce qu'on appelle un.
Mais les auditeurs vont nous renseigner.
Mais ça n'a pas d'importance.
Ah, ben ils en vendent les auditeurs, mais enfin, c'est nous qu'on fait l'émission quand même.
Ils sont contents.
On devrait savoir un peu, enfin.
C'est tout pour le moment.
Bon, c'est tout à part les petits dessins de.
Il y a un superbe dessin qui nous arrive.
Merci, mon petit Miège adoré. Merci, mon bon camarade.
C'est David.
Qui nous dit. Daniel, ça y est, ami, je se prend pour Mad Max. Ouais, avec un joli petit dessin.
D'accord, et puis un autre petit
J'arrive,
dessin.
J'arrive, Mel Gibson.
Et c'est marqué Hollywood.
Hollywood.
On appelle d'ailleurs, cette ville s'appelle, comment ça s'appelle? Il y a un surnom aux États-Unis, on appelle ça Tinseltown. C'est la ville des paillettes. Et cette ville des paillettes, qui est la ville la plus libérale des États-Unis, où tout est permis. Une chose n'est pas permise, c'est de professer la foi catholique et d'aimer Jésus-Christ. Ça, c'est clair. Mais c'est toujours comme ça avec les libéraux, vous avez remarqué? C'est rigolo comme tout. Bon, Aïe,
C'est tout sur
Mel Gibson. Alors, on va passer à ces deux jeunes absolument sympathiques, la Marie-Luc de Bar, qu'on a toujours plaisir à voir, ma petite Marie à moi, parce que j'ai bonheur à vous voir. Alors, qui vous êtes cadre dans l'industrie, on peut dire, hein, vous faites
Oui, je suis un grand constructeur automobile français, on va dire.
Voilà.
Donc, il n'y en a pas 36 000.
Voilà, dont une partie, du capital est encore détenue par l'État.
Il ne reste plus qu'un.
Ça fait plus
aujourd'hui.
Non, là, c'est un indépendant.
Oui.
Alors, donc, il n'y a pas tellement de. Il y a deux groupes. Hein, donc, très bien,
qu'est-ce qu'il a gagné? Si et on puis, donne la bonne réponse, une voiture.
Est-ce que je peux continuer à faire
vos
émissions?
Je vous en prie.
À moins que vous vouliez ma place, peut-être, monsieur Isnogood. Non, mais alors. Et Guillaume Clausier, qui lui est étudiant, vous étudiez quoi, vous, Guillaume?
La gestion.
La gestion de quoi?
La gestion informatique, la gestion sous toutes ses formes, qu'elle soit ressources humaines ou.
Ah bon? On fait des études de choses comme ça?
Oui, bien sûr.
Il y en aurait peut-être besoin pour certains groupes.
Oui, bah, peut-être
de
pour moi. Oui, pour moi. C'est à moi que. Ah ben, bah, il est sympathique. Mais qu'est-ce que. Tu lui as dit quelque chose à la messagerie, toi?
Ah, ça, faux frère. On en débattra dans quelques instants.
Faux frère. Bon. Et alors, vous, mon cher Guillaume, quel âge avez-vous? C'est pas les très.
J'ai 20 ans.
20 ans. Bon, Marie, on peut pas demander aux jeunes filles quel âge. Enfin, elle est toute jeune, et toute fraîche, et toute mienne. Alors, donc, vous avez 20 ans et vous êtes déjà président de l'association. Qui s'appelle Juventas Christi.
Voilà.
Et alors, vous êtes mis en tête avec Marie et puis beaucoup d'autres jeunes gens et jeunes filles.
De construire une chapelle dans la Nièvre pour les fidèles de la tradition.
C'est bien.
Voilà.
Donc, alors, vous êtes rattaché à la fraternité Saint-Pédis, représentée ici très guillement par notre ami l'abbé Guillaume, non pas Guillaume,
Grégoire Sellier.
Oui, alors en fait, notre aumônier, c'est l'abbé Schaeffer qui tient le prieuré Notre-Dame de la Sainte-Espérance.
Il a une très belle plume, l'abbé Schaeffer.
Voilà, non, pacte.
Oui, pardon. Continuez, ne vous laissez pas.
Et donc, cette année, pour la quatrième année consécutive, nous organisons le camp chantier. Donc, la première année, nous avions déblayé tout ce qu'il y avait dans les communs du château pour faire place nette. La deuxième année, nous avons pu détruire tous les murs qui restaient, enlever toutes les poutres. La troisième année, on a reconstruit des murs différemment. La nef a été mise en place. L'année dernière, nous avons continué sur la lancée avec le piquetage des murs. Donc là, vous avez quelques photos sous les yeux, vous pourrez peut-être commenter.
Ah, vous avez un site internet?
Oui, nous avons un site
internet. Ah, bon, on va le dire, hein, si on peut y aller sur le site?
Oui, on peut y aller.
Il n'y a pas besoin de mot de passe, de trucs comme ça?
Non, pas du tout.
Bon, on va donner. Donc, alors bon, c'est HTTP, le 2. La double barre, là, comme on dit.
Voilà,
c'est
pas me demander ça.
Slash, ça va ponzi, ça, monsieur. Donc, on dit une barre, machin, truc oblique, là. Deux barres obliques. Membre au pluriel. Membre.
Ah non, il y a une adresse plus simple.
Ah bon, alors
vous tapez le www.jeunecato.fr.st.
Au singulier. Jeunecato.fr.st. Alors, waouh. Bah oui, en hébreu, c'est un wow. Hein.
Une invention française, je rappelle.
Wow, oui.
Le web est une invention française.
Allons bon, là, autre chose. Bon, alors, très bien. Donc, waouh. Point. Jeune Cato sans S tout attaché.
Voilà.
On met un H après le T. .fr.st. Bon, c'est bon ça, je vais le noter moi alors. Alors vas-y, parlez pendant que je note là.
Alors donc, cette année, nous espérons bien avancer les travaux pour quasiment finir la chapelle, qui a déjà bien avancé, mais il reste du travail. Donc nous serons une quarantaine sur le chantier. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas pour recruter, mais c'est pour demander des sous. Étant donné que nous avons fait payer à nos étudiants qui nous rejoignent sur le chantier, juste ce qu'il faut pour subvenir à leurs besoins en nourriture et en matériel. Mais tout ce qui est matériel sur le chantier...
Moi, je veux dire, comme votre acte parle toujours de nourriture et de matériel et jamais de boisson, jamais je m'inscrirai dans vos chantiers.
Ah, mais nous avons une procure bien fournie.
Ah bon?
Et puis de toute manière, Daniel, je crois que vous êtes, vous ne déjà
moi,
vous passez pas la catégorie de l'âge.
Non, moi c'est fini, moi je suis.
Vous êtes hors catégorie.
Oui, je suis hors catégorie, moi je suis hors classe, je suis déjà un pré-retraité, on peut dire. Alors moi je trouve, bon, j'ai plaisir à vous voir tous les deux, parler aussi, Marie.
Et bien sûr. Juste, on veut pour informer les auditeurs, on a donné à Daniel Amiche quelques photos sous les yeux pour qu'il les commente, parce que nous.
Alors,
on a travaillé sur le chantier depuis 3 ans.
Je peux faire beaucoup de choses.
L'œil extérieur.
Je peux faire le poirier.
Est quand même appréciable.
Je peux dormir sur une jambe.
Allez-y.
Comme monter une photo à la radio, ça je sais pas faire.
Oh, la manière voilà, de
on
y trouve.
Bon, on voit comment les. Alors, on voit plein de jeunes sur les chantiers, des garçons, des filles. Alors, oui, je pense que je dis, voilà, il faut
alors,
des.
Alors, l'œil n'est pas expert, apparemment. Une petite aide. Deux photos sont sous les yeux de Daniel Amiche. Une photo du camp chantier d'il y a 2 ans et une photo du camp chantier de l'année dernière.
C'est celui-là l'année dernière. C'est ça.
Bravo.
C'est ça.
Oui, oui, c'est alors, donc on voit déjà que ça.
Après,
vous savez,
voilà, avant, après.
Ça a bien progressé. Non, mais c'est du boulot extraordinaire. On les voit, enfin, les gamins avec des outils.
Alors, la photo d'il y a 2 ans, on peut voir que la dalle par terre est en train d'être détruite, est en train d'être complètement cassée à la pioche,
et là, on voit que
au marteau-piqueur, etc.
Elle a été mise, là, ici, on voit.
Deuxième année, l'année dernière, la dalle est belle. Les murs sont tout piqués. Si vous voyez les murs, les pierres sont apparentes.
Sont apparentes, oui, c'est très, très beau.
Et ça. Quand vous voyez la dimension de la, future
énorme,
chapelle, 200 mètres carrés, plus de 6 mètres de hauteur de mur, alors bah, vous faites facilement, vous calculez facilement la surface en mur et en piquage.
Je pose la question à nos auditeurs.
2 ans de travail de piquage.
Faut-il construire des chapelles en France en 2003? J'entends, c'est un oui absolument manifeste. Donc, comment faire pour construire des chapelles en 2003? Eh ben, il faut déjà aider ceux qui les font.
Voilà. Hein, il y a plusieurs,
je fais ça pour ses amis, comme je le ferai pour d'autres fraternités ou d'autres. Vous savez, moi, je suis écuménique et dialoguant. Hein, c'est ma devise. Hein, c'est la devise de mon blason. Écuménique et dialoguant. Bon, mais ce qu'il faut, c'est d'aider ceux qui veulent nous aider.
Voilà. Donc, plusieurs ingrédients pour construire une chapelle. Évidemment, le vouloir. Des jeunes qui sont les bras, qui donnent ce qu'ils ont, et d'autres personnes qui ne veulent pas donner leurs bras parce qu'ils ne peuvent pas, mais qui donnent autre chose, qui donnent à leur échelle, à leur mesure. Tout simplement. L'année dernière, nous sommes venus et puis les auditeurs ont été très généreux. Ils ont donné à leur manière une aide financière, simplement.
Alors, il faudrait peut-être redonner l'adresse de la SOS.
Alors, on va donner l'adresse de l'association. Alors, l'association s'appelle Juventas Christi.
Juventas Christi, ça veut dire les jeunes du...
La jeunesse du Christ.
La jeunesse au sens... c'est un substantif, Juventas, non, c'est ça, hein, c'est... Les jeunes, non, on peut dire
non,
les jeunes,
oui,
La jeunesse au service du Christ, voilà.
C'est très belle traduction de l'ABCD.
Oui, la jeunesse au service du Christ, très bien.
Alors, Juventas Christi, 7 rue Adrien Damalix.
Damalix, comment vous l'écrivez, Damalix?
D-A-M-A-L-I-X.
Vous notez pas, vous, ma petite chérie,
Je vais prendre le papier, moi.
Ben, j'en ai pas de papier.
94 410 Saint-Maurice.
Alors, vous redites-nous ça encore une fois.
Alors, tout à la fois, Juventas Christi, 7 rue Adrien Damalix, 94 410 Saint-Maurice.
Il vous faut combien de sous? Vous avez l'idée de ce qu'il vous faut comme sous?
Alors, il nous en faut beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de limite. Évidemment,
il faut être raisonnable quand même.
Ce qu'il y a, c'est
on
ne
fait pas la Sainte-Chapelle non plus.
Le camp a été lancé. On lance un camp, évidemment, au départ. On ne sait pas si on va boucler le budget. Là, on vient, le camp va commencer le 4 août prochain. C'est tout près, c'est tout proche. Et nous sommes en train de boucler, d'essayer de boucler le budget. Alors, les auditeurs sont les bienvenus, s'ils peuvent nous aider à boucler. Bien évidemment, parce que si le budget avait été bouclé par avance, ça aurait été bien simple. Mais évidemment, il n'aurait pas été bouclé, donc le camp n'aurait pas eu lieu.
Mais il aura lieu, votre camp, tout de même.
Le camp aura lieu, parce que, eh bien, tout simplement, on est motivé, les auditeurs vont nous aider, tout le monde va nous aider, et chacun va nous aider à sa manière. Donc, nous sollicitons les auditeurs de Radio Courtoisie évidemment, on espère que leur aide va être généreuse, mais il faut dire que chacun nous aide. Au prieuré Notre-Dame de la Sainte-Espérance, à Couloutre, chacun nous aide en fonction de ce qu'il peut nous donner. C'est aussi bien de la nourriture que des sacs de ciment, des sacs de mortier, des pelles, des pioches, des burins.
Des bouteilles de rouge.
Enfin, des bouteilles de Sancerre.
Et des casques.
Et des casques.
Le dernier... Pour boire le rouge.
Voilà.
D'accord.
Le dernier don en date étant un don de 10 casques de chantier. Et ben, ça a l'air de rien, mais ça allège d'autant plus le budget du camp pour ce poste. Et voilà. On va pouvoir acheter des sacs de mortier en plus, d'autres choses supplémentaires.
La seule chose dont on n'a pas besoin maintenant, c'est des moufles et des passe-montagnes. S'il vous
voilà,
plaît,
on va s'en passer.
Non, si vous avez des cadeaux, gardez ça pour l'hiver. On aura d'autres associations qui viendront pour des sports d'hiver et l'escalade d'hiver. Bon, là, les moufles et les passe-montagnes, on n'a pas besoin. On a besoin des gants de chantier, de
voilà, des choses,
marteaux, de...
des choses qui sont tout à fait basiques, mais qui coûtent très cher.
Voilà.
Alors, pour les auditeurs qui nous écouteraient dans la Nièvre, vous pouvez également apporter des dons.
Écoutés partout, monsieur.
Vous pouvez, bien sûr, je n'en doute pas. Vous pouvez également apporter des dons en nature, c'est-à-dire nourriture, boissons, enfin, tout ce que vous voulez. Nous accepterons tout avec joie et voilà.
Ces jeunes sont des omnivores, donc ils mangent absolument tout. Chaud, froid de volaille, rôti de cochon, clou, marteau.
Mange du cochon.
Ah oui, mange du cochon. Oui. Ah bah, c'est pas une mosquée qu'ils font.
Oui, c'est vrai.
C'est une chapelle. Sois un peu à ce qu'on dit. Bon. Enfin voilà. Bah, écoutez, c'est très bien. Donc, Juventas Christi, on redonne une fois l'adresse, s'il vous plaît.
Juste avant, Marie. Un petit résumé pour que les auditeurs.
Rapidement.
Et bien compris, l'association Juventas Christi organise son 4e camp chantier pour construire une chapelle dans la Nièvre. Les étudiants, une vingtaine, construisent chaque année, donc pendant 15 jours, une chapelle de 200 mètres carrés pour les fidèles de la tradition. Ces jeunes sont les bras. Les auditeurs, nous l'espérons, seront les finances.
Les finances, très bien. Moi, ça a le mérite d'être franc.
Alors, s'il vous plaît, alors un grand appel aux auditeurs, s'il vous plaît, aidez-nous à construire cette chapelle. Avant, construire une église, c'était une aventure de plusieurs siècles, de tout un village, de toute une région. Et bien là, peut-être, ça va être l'aventure de toute la France, Gratia Ratio Courtoisie, qui est aimée dans la France et même dans le monde.
Et même dans le monde, et puis même plus loin, vous savez, dans
loin,
l'univers entier.
Dans l'univers, dans la galaxie.
Oh, les Vulcains vont vous
tout le monde participera à son niveau, à son échelle, à la construction de cette chapelle.
Merci.
Une dernière fois, l'adresse.
Oui, allez-y.
Juventas Christi, 7 rue Adrien Damalix, 94 410, Saint-Maurice.
Et puis Guillaume Clausier va avoir la gentillesse de nous donner le site internet.
Donc c'est www.jeunecato@fr.st.
Très bien. Il n'y a pas un numéro de téléphone où on pourrait vous joindre pendant cette période de l'été?
Alors vous pouvez me joindre, mais ce sera mon numéro personnel. Donc c'est 06
oui.
62
oui.
65
oui.
78
oui.
03.
D'accord, parce que
vous
quelqu'un...
Vous répétez, s'il vous plaît.
06 62 65 78 03.
Très bien. Pour achever, vous aviez reproché au docteur Dor d'avoir un esprit peu marketing. Je tiens à préciser que nous remercions tous les donateurs de l'année dernière et nous remercions par avance les donateurs de cette année.
Et par anticipation ceux de l'année prochaine.
Et que chaque équipe du camp chantier dit une dizaine de chapelets tous les jours pour les donateurs.
C'est excellent tout ça.
Alors
de mal.
Je voudrais terminer sur un petit mot. Un dernier mot.
Les jeunes sont pareils. Ils arrivent, ils sont intimidés, ils parlent pas. Puis quand ils prennent l'habitude, ils font comme moi. Hop, ils veulent plus lâcher leur truc. Moi, je lâche pas. Oui.
Donc, un dernier mot, ça serait pour rappeler que cette année, la fraternité a choisi comme thème l'honneur de servir l'église. Donc là, nous avons 40 jeunes cette année qui ont choisi de servir l'église en allant construire une chapelle. Ça serait bien si les éditeurs choisissaient de la servir en nous donnant un peu d'argent.
Un petit peu d'argent, etc. Puis, alors, sur place, il y a toute l'ambiance. Ce sont des jeunes catholiques, il y a la messe, il y a les prières en commun, etc. Donc, une bonne ambiance. Bon, tout ça, c'est très bien. La maison du Père est très grande. Il y a de nombreuses pièces, de nombreuses chapelles à construire, d'ailleurs, de nombreuses soupapes. Il y a tout ce qu'il faut. Et une très bonne cave. S'il n'y a pas de problème, il y a une très bonne cave. Voilà. Merci, Marie.
Merci à vous. Merci à tous les
Guillaume.
Auditeurs.
Merci, Guillaume. On est très content de vous recevoir. On vous souhaite un très bon et très fructueux camp de travail. Mais c'est une belle œuvre que vous faites. Et puis, bon, bah... N'hésitez pas à revenir nous voir, même entre deux chantiers, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé, comment était l'ambiance, et tout à bien. Et puis on redonnera un petit coup de... Hein,
une petite
piqûre de rappel.
Merci beaucoup, Daniel.
C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie tout ce que vous faites, parce qu'au moins, ils bossent, ces jeunes-là. Bon, ma petite Victoria. Alors, adorée.
On nous dit que c'est un acronyme.
Acrostiche. Acrostiche.
Alors, attendez. Plusieurs nous disent que c'est un acronyme, et un autre nous dit Monsieur l'abbé Sévier est d'accord. C'est acrostiche.
Un poème en acrostiche, c'est un poème dont tous les vers commencent par une lettre. Et quand on lit toutes les premières lettres des vers de haut en bas, on a un autre mot ou un autre vers qui apparaît. Voilà. Ça, c'est acrostiche. C'est un acronyme, me semble-t-il. Voilà. Hein. Merci. J'ai un peu de choses, mon enfant. Elle me dit merci, elle me fait un petit mot écrit de sa belle petite main pour me dire merci. Merci de quoi ? De rien du tout. Enfin, bon, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ?
Pourquoi avoir traduit, comme vous l'avez dit, au début, le texte de l'évangile de l'américain en latin et en araméen, alors qu'il a été traduit il y a longtemps, au 5e siècle, par Saint Jérôme, c'est la Vulgate.
Est-ce que cet auditeur lit l'évangile dans la Vulgate de Saint Jérôme? Non, mais il ne faut pas nous prendre pour des perdreaux de l'année tout de même, non? Évidemment qu'on lit la Sainte Écriture pour la pluralité, enfin quasiment la quasi-majorité des chrétiens dans le monde, on lit dans sa langue vernaculaire, on n'y peut rien, c'est comme ça. Pour les plus courageux, ceux qui ont fait des études, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi je suis sorti chez un enfant de la balle, on lit en latin, on apprend la semaine, tout le monde le lit dans sa langue naturelle, enfin ça tombe sous le sens. Sinon, à quoi ça sert qu'on traduit ça dans toutes les langues?
Et un auditeur nous dit qu'il ne connaît pas Juventas, mais qu'il ne connaît que Juventus. Monsieur
je n'ai pas dictionnaire sous la main.
Moi, ils m'ont dit Juventas, j'avais écrit Juventus, et puis ils m'ont dit non, c'est Juventas, on dit Juventas, Christi, et puis voilà. Voilà, donc vous êtes d'accord, les jeunes, là, c'est Juventas ou Juventi? Bon, c'est très bien tout ça, c'est très bien. Et puis, et tout le temps?
Pour le moment, oui.
Bon, alors c'est très bien, voilà, il n'y a pas d'autre chose.
Il y a un nouveau dessin de Miège qui est arrivé.
Ah oui, mais alors là, ça va pas. Non, mon cher David, Gibson n'est pas australien. C'est incroyable. Là, il en fait. Et il faut lui demander pour qu'il en fasse pour le journal, parce que Miège est un collaborateur, David Miège, très grand dessinateur devant l'Éternel, et toute la cour céleste, est un très grand dessinateur. Et il nous fait des petits Mickey aussi pour nous. Moi, j'appelle les Mickey les dessins.
Mais là, c'est un kangourou. Hein, un beau kangourou,
il vous. Là, il m'a fait un kangourou.
Pourquoi le kangourou, et David, si tu m'entends, pourquoi le kangourou, il fait Ouba?
Oh bah ça, c'est des trucs de dessinateur.
C'est un clin d'œil au marsupilami. Ouais, mais le marsupilami, c'est pas un grand bout.
Ouais, enfin bon. C'est très bien, marsupilami.
Ah oui, c'est très bien.
C'est très bien. Puisque vous avez pris la parole, mon cher Guy, peut-être allez-vous la conserver
Si vous voulez bien, moi.
Que l'on vous passe votre petit jungle.
Générique.
Allez, la jungle.
Notre petite rubrique consacrée à la bande dessinée et au livre jeunesse. N'est-ce pas, mon cher Daniel? Ça faisait bien longtemps.
Vous me regardez.
Ça faisait bien longtemps. Je pensais que
vous raccrochez à moi comme au radeau de la Méduse. Vous êtes lancé. Allez-y, mon gars, danger. Hein.
Allons-y. Notre trop rare rubrique, parce que c'est bien dommage de ne pas parler littérature jeunesse. Il y a des auditeurs qui ont des enfants, il y a des enfants qui nous écoutent, et puis jamais il n'y a rien pour eux sur cette antenne.
Vous négociez ça.
Oh, que c'est dommage.
Vous négociez ça avec Serge de Becquet.
Je dis ça dans toutes les radios, parce qu'on laisse.
Moi, je n'ai pas eu d'émission depuis le 18 juin.
Oui, mais on délaisse quand même les enfants sur les stations de radio. Alors, comme invité, Monsieur l'abbé Grégoire Cellier, directeur des éditions Clovis.
C'est un nouveau, on ne l'avait jamais vu encore, l'abbé.
Oui, c'est un petit nouveau dans l'édition. Et aussi mon éditeur, bien sûr. Nous allons parler de littérature jeunesse et aussi, ce qui n'est pas tout à fait de la bande dessinée, mais ça s'en rapproche très fort, des histoires en images avec un nouvel album de la collection Chemin de Lumière, qui est dans la pure tradition de Belles Histoires, Belle Vie, et maintenant ça s'appelle Chemin de Lumière, n'est-ce pas?
Voilà, donc c'est une collection que nous avons reprise.
puisque nous avons négocié avec Fleurus le rachat des droits de l'édition originale, donc des 97 volumes de l'édition originale, des Belles Histoires Belle Vie, auxquels nous rajoutons, nous sommes en train de les rééditer, hein, c'est une grosse et longue entreprise, et nous rajoutons les saints qui n'ont pas été traités et qui nous paraissent, qui nous conviennent, qui conviennent à ce qu'on a envie de faire, et puis qui ont une actualité, et bon, évidemment, Saint-Padre Pio, puisque c'est un volume sur Saint-Padre Pio, et une actualité, elle a été canonisée l'an passé. Donc nous venons de sortir, avec un peu de retard, ça devait sortir pour la canonisation, mais c'est un énorme travail, hein, faire 144 dessins intérieurs plus un dessin de couverture. Donc le dessinateur a mis plus de temps que prévu pour cette série.
C'est remarquable parce qu'il a pris le style, le dessinateur a pris le style des anciennes séries.
Voilà.
De...
Voilà, notre modèle, donc dans Les Belles Histoires Belle Vie, c'est donc Robert Rigaud,
oui,
comme dessinateur, et comment s'appelle cette religieuse là qui est décédée?
Agnès Richaume.
Pour le récit, donc Guy Lehideux qui fait les scénarios est censé se confronter à Agnès Richaume, et Charlie Kieffer qui a fait les dessins à Robert Rigaud, donc à cet esprit qui a été celui des grands de la série et de la série Belles Histoires Belle Vie.
Donc c'est un style qui s'appelle, c'est un dessin qui s'appelle le dessin ou la vie.
Ouais.
C'est-à-dire que les ombres sont représentées, ce n'est pas un dessin outré.
Et il n'y a pas de bulle.
Non, il n'y a pas de bulle.
Il y a des commentaires sous les images.
Sous les images, oui.
Voilà, donc c'est du texte imagé, donc 4 images par page, avec un texte plus long qu'un texte de bande dessinée classique.
C'est comme le film de Mel Gibson, mais avec des sous-titres.
Voilà, c'est ça. Et donc, il y a une richesse, je dirais, littéraire, qui est peut-être plus grande que dans une bande dessinée à l'état pur, et avec néanmoins donc du dessin au lavis, mais qui est en monochrome, hein, qui n'est pas traité en couleur, qui est traité en sépia, donc une couleur plus ou moins sépia, parce que c'est l'idée originale de la collection, et qu'effectivement la colorisation qui a été faite dans les années 80 n'a pas été particulièrement heureuse, parce que le dessin ne s'y prêtait pas et n'était pas conforme à cette colorisation.
Alors, on va parler aussi du numéro de Fidélitaire dans cette émission, n'est-ce pas, Monsieur l'Abbé? Une émission de Fidélitaire qui est consacrée à la bande dessinée chrétienne.
Voilà, donc c'est le numéro d'été. Le numéro d'été, nous le consacrons toujours à quelque chose d'un peu plus léger que des sujets trop théologiques, parce que les lecteurs ont le droit un petit peu de se reposer dans leur lieu de vacances. Et donc là, nous l'avons consacré à la bande dessinée chrétienne pour faire découvrir ce patrimoine qui existe, notamment l'âge d'or de la bande dessinée en soi et de la bande dessinée chrétienne des années 50-60, où il y a eu vraiment une production de grande qualité et très importante, et en même temps pour, je dirais, faire réfléchir les lecteurs, notamment vis-à-vis des enfants, sur l'importance de l'image dans la formation et dans l'éducation des enfants, car souvent on néglige, notre société va trop vers l'écrit. Je ne dis pas que je suis contre, parce que moi je suis un homme de l'écrit, je suis un homme du livre, mais l'image porte à la réflexion, porte à l'ouverture, porte à l'imagination, porte à beaucoup de choses. Donc il y a une importante réflexion sur le rôle de l'image, sur l'histoire de la bande dessinée, donc qui est assuré notamment par notre ami Guy Lehideux, ainsi que par le président du CRIA BD, donc qui est cette petite association qui travaille à la promotion de la bande dessinée chrétienne, et donc c'est un religieux jésuite, avec notamment un site internet qui est cité dans le numéro, et puis donc la découverte, et un appel aux lecteurs d'aujourd'hui à soutenir ce qui se fait encore aujourd'hui, après une quasi-éclipse pendant 10 ans de la bande dessinée chrétienne, qui a été écrasée sous la crise à la fois religieuse, culturelle, médiatique, etc., et morale. La bande dessinée chrétienne a redémarré dans des conditions difficiles, peu d'éditeurs, pas facile de trouver des scénaristes, encore plus des dessinateurs, peu d'argent, diffusion difficile, diffusion par des circuits qui ne sont pas forcément les circuits du grand public, et en même temps, je dirais, le cercle vicieux. Diffusion difficile, donc vente insuffisante, donc pas assez d'argent pour payer des bons dessinateurs, donc pas forcément la qualité demandée, donc les gens n'achètent pas, etc., etc. Il faut rompre ce cercle vicieux, redonner du souffle à la bande dessinée. Sous le nom de bande dessinée, nous avons parler en fait de tout ce qui est illustré. C'est-à-dire que ça soit les romans avec des illustrations, que ça soit le texte imagé comme les collections Belle Histoire, Belle Vie et Chemin de Lumière, ou que ça soit la bande dessinée à l'état pur. Clovis n'a pour le moment jamais fait de bande dessinée à l'état pur. Principalement pour des raisons de coût, c'est excessivement cher.
C'est une spécialisation au plan de l'édition. Vous publiez combien, chez Clovis, combien de livres par an à peu près en tout, avec les plaquettes pour les enfants les...
Nous publions un livre par mois.
C'est pas mal.
Donc un livre par mois. Et donc depuis que je suis arrivé, depuis 1994 que je suis arrivé à Clovis, nous avons fait 60 livres de jeunesse.
Voilà.
60 livres de jeunesse.
Plus d'autres livres parce que vous faites plus, pas des
voilà,
livres de jeunesse.
Non, donc nous avançons vers les 120 livres depuis que je suis là, hein, mais un petit peu plus en fait d'un livre par mois. Mais en matière de livres de jeunesse, nous avons fait 60 volumes sur tous les tranches d'âge. Maintenant, nous avons rempli. Mais nous occupons, sans avoir encore rempli suffisamment, toutes les tranches d'âge de 2 ans à 14 ans. Donc de 2 ans, c'est la collection Petit Ange par Jean-Luc Cherrier.
C'est mignon comme
et tout. Puis ensuite, donc je vais à partir de 4 ans, c'est la collection Agathe et Louis. Donc le dernier vient de sortir, donc je vais le remettre à Monsieur Amiche.
Oh, c'est comme c'est gentil.
C'est un petit peu complexe.
Un cadeau.
C'est un petit peu difficile, déjà, je sais, mais enfin.
Oh là là, est-ce que je vais pouvoir lire tout ça, moi?
Voilà. Bon, lisez-le en plusieurs fois, c'est peut-être plus raisonnable.
Mais alors, comme c'est déjà colorié, je avoir du mal alors. Encore. Bon, il a donné une chose.
Donc voilà, c'est Agathe et Louis à Hong Kong. C'est le dernier. Il vient de sortir. Il est sorti il y a 2 jours. Donc on peut le trouver dès maintenant à la librairie France Livre ou à la librairie du Ken. Et puis à Clovis, à Étampes.
Alors Agathe et Louis, on peut dire que c'est dans la grande tradition des Martines, des Carolines.
Voilà, c'est cette tradition-là. Donc les grandes pages illustrées avec des héros jeunes. Hein, donc là, c'est un garçon et une fille qui doivent avoir quoi, 10-12 ans.
Ouais, une dizaine d'années.
Voilà,
une dizaine d'années, oui.
Et à qui il arrive. Alors la base, c'est pas comme Martine. Martine est avec ses animaux. Caroline, c'est la vie à la maison. Ici, ce sont des voyages. On découvre en fait la France et le monde. Et ici, c'est donc un séjour à Hong Kong où se passent des aventures bien sûr rocambolesques. C'est ça qui est amusant. Mais la ville et l'ambiance de la ville est très bien rendue pour la bonne raison que le dessinateur lui-même a fait plusieurs voyages à Hong Kong dans le cadre de son travail. Et que donc l'ambiance de la ville est parfaitement bien... Cette ville avec des dénotations, le fait que ça conduise à gauche puisque c'est une ville d'origine anglaise. Les gros Richards américains, même
c'est curieux cette proportion parce qu'il y a la Chine, il y a Hong Kong et puis il y a la Chine
continentale
populaire, bon, ouais. Etc. Maintenant ils font partie, mais enfin c'est un statut un petit peu particulier, mais enfin c'est curieux cette proportion qu'ont les gens de gauche à rouler à droite,
voilà,
et les gens de droite à rouler à gauche.
Oui. Alors donc, et à Hong Kong il y avait, j'espère qu'il y a toujours une importante communauté catholique.
Voilà, alors ici effectivement il est noté, donc dans l'aventure ils rencontrent à un moment, ils sont aidés par le père Alain. Je précise que le dessinateur
oui.
est du Nord et que je crois que le père Alain effectivement est inspiré d'un père Alain du Nord connu qui intervient et qui effectivement rappelle que à Hong Kong il y a cette communauté catholique qui n'est pas à négliger et qui a je crois une assez grosse influence au moins en matière scolaire comme dans tous ces pays où les catholiques sont très minoritaires comme l'Inde etc. les religieux font énormément dans l'ordre de la scolarisation.
Les catholiques, monsieur, ils sont partout.
Voilà. Donc voilà, ça c'est notre collection pour les 6 ans. Nous avons donc une collection pour les... ça c'est les 4 ans, excusez-moi, j'ai dit les 6 ans, mais ce sont les 4 ans. Collection pour les 6 ans, donc c'est la collection Les Aventuriers du Mercredi, donc ça va bientôt sortir, le deuxième va bientôt sortir, qui s'appelle Mystère et Boule de Gomme. Vous avez là une épreuve de couverture, donc Mystère et Boule de Gomme, si vous voulez le regarder, c'est rigolo.
Combien de fois le père Alain apparaît-il dans la bande dessinée que vous venez de m'offrir?
Je pense qu'il a... je ne sais pas, je pense qu'il est... On doit le voir 4 fois, non?
Raté, 5 fois.
Voilà.
Mais... Ça, je suis facétieux. Faut pas vouloir, je suis comme ça.
Voilà. Donc, ça, c'est Cherrier, donc l'auteur de Petit Ange, qui est pour cette série, Les Aventuriers du Mercredi. Alors là, c'est les 6 ans. Alors ça, c'est des jeux dans la maison. Des jeux dans la maison et autour de la maison de jumeaux, un garçon et une fille. Et c'est Jean-Luc Cherrier, donc, qui écrit et qui illustre.
Donc c'est on dit jumeaux quand c'est un garçon, c'est parce que le masculin l'emporte sur le féminin.
Voilà, bien sûr.
Sinon, on dirait des jumelles, ces deux filles. Mais quand il y a un garçon, maintenant, avec la parité orthographique et lexicale et grammaticale, comme il faut dire, voilà. Quand vous avez la malchance d'avoir un garçon et une fille en même temps, qu'est-ce qu'il faut dire des jumelles?
Voilà.
Hein, bah non, bah,
mais
enfin, il faut qu'on.
Des jumeaux.
Soit ce que je dis d'abord,
mais j'écoute.
Et soit un peu de ton temps.
J'ai mis le casque en plus, pour mieux écouter.
Comment est-ce qu'il faut dire que c'est un garçon et une fille? Parce que là, c'est horriblement. C'est
machiste. Arrêtez, Daniel, c'est les jumeaux, point.
Voilà, allez.
Ça, c'est, vous êtes machiste, vous aussi. Voilà. Ça, je comprends pas.
Voilà. Voilà, et ensuite, nous avons notre collection Lys d'or. Qui est une collection donc à partir de 8 ans, qui va jusqu'à 14 ans, et dans lequel, alors là, ce sont des romans avec de l'illustration. Donc là, je peux vous montrer un roman qui va sortir les illustrations de ça s'appelle Eva Polska. Et donc,
il nous reste 5 minutes.
Voilà.
Donc ça sera une nouvelle série.
C'est une nouvelle série. Une
série policière.
Série policière avec une enquêtrice qui est une religieuse. Donc c'est ça s'appelle les enquêtes de Sœur Bernadetta. Et donc ça se passe en Pologne, parce que l'auteur est d'origine polonaise. L'auteur qui est une femme sans E. Femme avec un E, mais auteur sans E. Puisque nous sommes dans voilà.
J'ai eu peur sans E.
Mais donc, ce qui est important dans tout cela, je pense, et c'est ça répond évidemment à la croisade de Guy Le Hideux en faveur de l'illustration, c'est que le positionnement que nous avons choisi à Clovis consiste, alors qu'il y a de très bonnes maisons qui font de la réédition justement de ce patrimoine de la bande dessinée et du livre illustré des années 50-60. C'est une très bonne initiative de rééditer ce qui a été le meilleur pour le remettre à la disposition du public. Nous avons choisi la voie de la création des textes, mais puisque nous sommes sur l'illustration, création des illustrations, que ça soit les albums illustrés pour les plus jeunes ou que ça soit les romans avec des dessins pour les plus grands, donc avec des dessinateurs d'aujourd'hui à qui nous essayons de donner leur chance d'abord et d'exprimer un dessin, une ambiance, une atmosphère qui soit à la fois profondément pénétrée de nos valeurs et de notre foi, de nos valeurs françaises et catholiques, mais en même temps qui soit d'aujourd'hui, qui corresponde à une sensibilité, à une esthétique, qui soit d'actualité, et en même temps des dessinateurs qui peuvent s'exprimer et qui peuvent apporter à notre communauté une...
Je peux vous poser une question, parce que ça, le travail que vous faites, c'est un travail à plein temps. Donc en fait, c'est votre apostolat, c'est votre...
Moi, je fais ça. Voilà,
votre messe quotidienne et, voilà, et la messe dominicale, vous faites que ça.
Je fais que ça. Moi, de fait, je suis un prêtre un peu particulier, puisque j'ai jamais été je suis tous les dimanches en paroisse, mais en semaine, j'ai jamais été en paroisse. J'ai fait 11 ans dans une école, et depuis donc 1994, je suis éditeur. Donc c'est un travail assez particulier, mais j'ai 10 collaborateurs laïcs. Donc il faut bien voir un petit peu la dimension des choses. C'est pas moi qui fais tout le travail. J'ai 10 collaborateurs laïcs, plus des auteurs, plus des dessinateurs, plus des intervenants, toutes sortes d'intervenants. Je suis là, moi, justement, comme garant de la ligne éditoriale, de l'esprit qui doit être donné. Et bon, je participe, bien sûr, pas mal, j'y travaille, mais c'est surtout pour donner cette impulsion à tous ces gens et les fédérer, et en même temps, leur donner cette possibilité d'exprimer. Tant les auteurs que les dessinateurs sont des gens qui, souvent, ont souffert dans des maisons où ils étaient obligés de travailler, mais pas selon leurs convictions, etc., et ils peuvent exprimer leurs convictions, et en même temps faire partager cela aux jeunes, puisque ça, c'est la littérature de jeunesse.
Alors, la question que je vais vous poser, il nous reste une minute. Hein. Donc, alors, où est-ce qu'on peut trouver les livres dont vous avez parlé, qui sont publiés, vont être publiés? Alors,
Les éditions Clovis. Donc, édition Clovis, boîte postale 88, 91 152 Étampes. Clovis, boîte postale 88, 91, 152, Étampes.
Vous devez être à l'étroit dans une boîte postale.
Non, c'est là, juste le courrier qui arrive. Donc c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Ou à la librairie France Livre.
Qui n'est pas dans une boîte
postale. 6 rue du Petit Pont, 7505 Paris. Le téléphone, c'est le 01 43 25 36 67. Donc la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5. 5e arrondissement.
Elle est ouverte tous les jours, du mardi au...
Non, du lundi, au samedi, de 10h à 19h tous les jours, y compris pendant le mois d'août.
Rue du Petit Monde.
Bien sûr, il y a du Ken,
etc. Tu as un petit commentaire?
Oui, parce qu'il faudrait peut-être... Non, on peut continuer après la
pause. Alors, bon, après, vous permettez, c'est mon émission. C'est mon émission. Donc, il y a la pause technique. Ensuite, nous allons avoir Cécilia Daem qui va nous parler un peu de
fleurs.
De fleurs, ça va nous rafraîchir et embaumer l'atmosphère. Et si vous le voulez bien, je vous laisserai à chacun 2-3 minutes après.
Oui, parce que j'aurais voulu parler de la spécificité justement du métier d'illustrateur et de dessinateur de bande dessinée. C'est des métiers très particuliers. Et c'est pas parce qu'on a fait les beaux-arts ou qu'on est un peintre extraordinaire qu'on peut faire de la bande dessinée ou de l'illustration.
C'est très bien. Donc nous nous retrouvons dans quelques instants. Alors voilà, dilectissimi auditore,
Ave, oui.
On peut dire salve. Auditore ou salve.
Auditores, à mon avis. Auditoris.
Auditoris, alors dilectissimi.
Auditores.
Salve.
Mais vous êtes sur Radio Courtoisie.
Ah bah, la radio de la langue de la française, latine, araméenne et de la francophonie. Voilà.
Où nous
attends, je vais vous faire ça en araméen la prochaine fois.
Ah oui.
Encore un dessin de Miège.
Toujours sur les dessins.
Bah, qu'est-ce qu'il met? Alors, dit une BD sur Mel Gibson, justement dans les deux. C'est mignon. Merci, mon petit David. C'est bien toi le meilleur.
Oui, mon cher David, c'est toi qui l'illustreras.
Bon, voilà, c'est toi qui feras tout.
Et une auditrice.
D'ailleurs, on t'appelle le grand fait-tout.
Mais c'est fini, oui.
On répond
alors, aux auditeurs. Une auditrice qui est gentille a cherché dans le Gaffio et elle a dit, elle a vérifié, donc c'est bien Juventas.
Voilà,
vous avez raison, parce que nos auditeurs étaient. Vous soupçonnez.
Oh, c'est qu'ici, il faut point faire de solicisme.
Bon, une auditrice aussi, pote de Serge de Becquetch ce soir, dit-elle, et elle demande quel est le montant de l'abonnement du Libre Journal pour l'année.
Au Libre Journal.
Alors.
Le montant d'abonnement au Libre Journal.
Oui. Enfin, l'un et l'autre se disent.
Non.
Alors, 110 euros, qu'il faut envoyer 4 places Franz Liszt à Paris 10e, intitulé SDB. Et si vous voulez recevoir seulement un numéro, vous précisez lequel et vous envoyez un carnet de timbres.
Non oblitéré.
De préférence.
Ou alors un timbre de collection. Un timbre de collection.
Le Black Penny. Voilà, ouais, pas de problème.
Je rappelle l'adresse du légitimiste qu'on me réclame. Alors, légitimiste, 22 rue Didot, 75014 Paris. Si vous envoyez un chèque pour l'abonnement, oui. Ou pour les deux numéros.
Oui, alors c'est 5 euros les deux numéros.
Après, je vous dirai ça. Après, mais arrêtez, Daniel. Alors, 10 euros pour... Oh, vous me faites tout tromper. L'abonnement, c'est 10... Pour en avoir 10 numéros, vous aurez 10 euros. Et 5 euros pour recevoir seulement les deux premiers numéros qui sont déjà parus et qui contiennent les articles sur le film de Mel Gibson, La Passion. Ce sont les numéros 363 et 364.
Bravo.
Pour l'abonnement... Ou l'achat du numéro, donc l'intitulé, c'est bien légitimiste,
oui,
pour faire le chèque.
Légitimiste, oui, c'est bien.
Et le site, alors le site de Mel Gibson, c'est www.passion-movie.
Non, ce n'est pas le site de Mel Gibson, c'est un
site où on peut trouver tous les renseignements sur Mel Gibson.
C'est un site de ce qu'on appelle un fan. Non, c'est pas du tout un site officiel, hein, c'est un film. Mais il est très bien fait, j'y suis allé encore début d'après-midi.
Comment voulez-vous que mes malheureux auditeurs notent pendant que vous parlez de Daniel? Alors, chut.
Vous avez des fausses informations.
Je recommence, www.passion-movie.com. Voilà. Bonjour. Tout va bien?
Non, c'est pas ça, c'est pas...
www.passion-movie.com.
Bon, vous redites encore une fois, parce que là... Bon.
www.passion-movie.com. Movie.com. Voilà. Movie et Movie, naturellement.
Voilà. Bon. Ah, elle a fini là.
Alors, non, faut épeler le site internet parce qu'ils ne l'ont pas bien noté. Le site internet de l'association Juventas, arrêtez Daniel. Juventas Christi. Alors, l'adresse, c'est 7 rue Adrien Damalix. D-A-M-A-L-I-X, 94-410-Saint-Maurice. L'adresse internet, on recommence, www.jeunecateau, tout attaché, sans majuscule, .fr.st. Et le numéro de téléphone personnel, c'est peut-être pas la peine de le redonner. Avec ça,
donnez-le, oui.
Bon, alors il est gentil, il donne son numéro personnel.
C'est le 06-62.
Je l'ai. 06-62-65-78-03. Vous pourrez les demander au secrétariat, elles y seront, ces adresses. Voilà. Et l'adresse dans la Nièvre, qu'on nous a demandé aussi, c'est Prieuré, Notre-Dame de la Sainte-Espérance, Le Château, 58-220. Coulouttre. C'est ça. Voilà, C-O-U-L-O-U-T-R-E.
Voilà, très bien. Donc vous allez me laisser ça maintenant, ma petite, parce que je vais en avoir besoin, puisque nous avons une très bonne amie à nous au téléphone, avec laquelle on va enfin pouvoir s'entretenir de choses qui vont peut-être nous rafraîchir, en tout cas embaumer notre soirée et notre studio. Allô. Bonjour ma chère Cécilia. Bonjour. Oh, comme je suis malheureux de vous savoir si loin.
Mais je serai là bientôt, je serai là le 13.
Bah oui, mais alors vous êtes dans vos fleurs, dans vos plantes, dans vos arbres.
J'ai vu sur ma closerie, oui, sur mes bouleaux.
Eh bien écoutez, c'est très bien. Alors donc, vous voulez qu'on vous mette un petit coup de piano là. On va vous mettre un petit coup de piano avec la gentillesse de Franck.
Je vous ai guéra.
C'est beau, hein. Qu'est-ce que c'est beau, hein.
Oui.
Alors, ma chère amie, vous aviez donc, vous n'avez pas l'invité ce soir, donc, mais vous avez par contre quelques livres dont vous souhaitiez nous entretenir.
Une bonne soirée à nos auditeurs, et puis comme c'est la saison des promenades, je vais leur donner quelques ouvrages qui pourraient les aider. Alors, j'en ai un tout premier qui s'intitule « Guide de la faune et de la flore ». Il concerne toute l'Europe. C'est la nouvelle édition de ce genre de guide chez Flammarion. Il est d'un format extrêmement pratique. On peut vraiment le glisser dans son sac à dos, dans sa boîte à gants. Et il recense 800 plantes et animaux de nos contrées.
C'est donc toute la faune de l'Europe, c'est pas la peine d'aller dans toute l'Europe. On va à Bruxelles, on va au Parlement et au truc de l'Europe. Voilà toute la faune de l'Europe, là.
Oh oui, mais enfin bon, celle-ci ne nous intéresse pas beaucoup pendant les vacances, quand même.
Oh, ça change aussi.
Des petits crapauds, des petites choses comme ça.
Bah, c'est bien, on parle de la même chose.
Alors, il y a une chose très pratique, très amusante, c'est que la tranche du livre, les tranches du livre sont de la couleur des fleurs que vous pouvez trouver. Vous découvrez des fleurs bleues ou des fleurs brunes, vous savez que ça existe aussi, des petites fleurs chocolat, eh bien, vous ouvrez à ces pages-là et vous trouvez. Alors, en plus, il est d'un prix très... Alors, il est de Wilhelm Heinzerecht, Eisenreich, peut-être un botaniste allemand, et il coûte 18 euros, il est publié chez Flammarion, il n'est vraiment pas très cher, et il est, comment dit-on, pelliculé, il est très très bien. Et
très
il a
bien.
Même un petit double décimètre sur la page de garde, si on a des choses à mesurer.
Très bien, très bien.
Alors un autre, qui est beaucoup plus encombrant, mais qui est beaucoup plus complet, qu'on peut presque taxer d'encyclopédie, qui est aussi publié chez Flammarion et qui s'intitule « Faune et flore de France et d'Europe », ça doit être à la mode, sous la direction de Michael Chinnery, lui ça doit être en anglais. Alors là, il y a le double d'articles, il y a des cartes, il y a des schémas, et aussi les caractéristiques essentielles des principaux écosystèmes européens, c'est quand même très intéressant. Il coûte 38 euros, il est toujours chez Flammarion, et il est vraiment extrêmement bien illustré, très très richement illustré, avec des photos, des schémas, des dessins, et il y a à la fin un index très complet, ce qui fait qu'on peut rechercher n'importe quelle bestiole. Je vois là, j'ai la page des petits insectes, les moustiques, toutes ces petites choses-là. Voilà.
Et bah, écoutez, laissez dans votre livre les moustiques, là.
Oui, oui, oui. Chez moi, je n'en ai pas. Je suis très étonnée. Dans ma nouvelle demeure, j'avais apporté des tas de choses anti-moustiques et ça ne me sert à rien. Voilà, c'est ça le Poitou, vous voyez. Alors, un autre qui est très, très beau, qui est plus un livre d'art, qui s'intitule « Labyrinthe » au pluriel, de Jeff Saward, qu'on donne pour le grand spécialiste des labyrinthes. Toujours chez Flammarion, c'est une coïncidence. Alors d'abord, il commence par un historique du labyrinthe qui fascine beaucoup en ce moment, n'est-ce pas? Les gens en créent un peu partout, on en trouve même en tissu, qu'on étend comme ça par terre pour une retraite ou pour un colloque.
Ah bon, je pensais que ça s'appelait des serpillères.
C'est la cathédrale de Chartres, c'est l'un des plus célèbres.
Ah bon, il est connu, enfin, oh là là. Qu'est-ce qu'il attire comme fou, celui-là? Je peux vous le dire, il en attire des fous. Hein.
en rocher, en taupière, ouais. Il est superbe.
Très bien.
Et il y a aussi ensuite à la fin un cahier pratique avec les labyrinthes les plus célèbres à travers les pays d'Europe, toujours, nous n'en sortons pas. Magnifique. Et les grands créateurs de labyrinthes, ce qui permet de très belles promenades. Ah, il coûte, je crois, 40 euros, oui. Et alors, puisque nous en sommes au chapitre de labyrinthe, on en trouve un petit peu partout en France. Vous savez qu'il y a 2 ans, on en avait présenté un, celui de la ferme de Galie.
Ah, oui.
Je vais en citer 3 seulement aujourd'hui. Alors, à tout seigneur, tout honneur, n'est-ce pas, un petit en Poitou, qui est un labyrinthe de maïs, qui est situé à Romagne, au sud de Poitiers, tout près de la très célèbre Vallée des Singes, qui est une chose absolument merveilleuse à visiter, qui bien qu'étant consacrée à l'admiration, à la visite des singes, représente aussi un lieu botanique superbe, parce qu'ils ont là recréé toutes les conditions qu'il faut pour que ces bêtes charmantes, pour certaines, et moins sympathiques pour d'autres, vivent bien, et les plantes médicinales que les singes utilisent eux-mêmes selon leurs besoins. Vous saviez ça?
Je ne savais pas que les singes se soignaient.
Vous avez des odeurs de menthe, vous vous promenez dans les sentiers, vous avez des odeurs de menthe, des choses comme ça, parce que vous avez froissé les feuilles, c'est absolument merveilleux. Donc, ce labyrinthe est à Romagne, et il s'intitule « Sur le sentier des pas perdus ». Il est consacré aux découvertes des richesses de la Vienne. Vous savez que c'est un département extrêmement touristique.
Très.
Il y a un autre en Alsace, à Ribeauvillé, qui cette année est consacré à l'œuvre d'Alexandre Dumas. L'an dernier, c'était Victor Hugo. Alors, Ribeauvillé se trouve entre Colmar et Strasbourg.
Oui.
Et puis un tout nouveau, créé à Lyon, au domaine de la Croix-Laval, près de Lyon, c'est le labyrinthe des senteurs. Alors, on a un nez familier avec de la rose et du chèvrefeuille, un nez gourmand avec des clématites, enfin, etc., un nez insolite. Et il faut le parcourir les yeux fermés et reconnaître les odeurs. Il paraît que c'est très amusant. Alors, tous ces labyrinthes sont en principe ouverts jusqu'au 31 août et celui de Lyon est ouvert jusqu'au 28 septembre.
Très bien.
Alors, voilà des petites idées.
Eh bien, ça fait des dents.
Si vous m'accordez encore 3 minutes, je vous raconte une petite anecdote.
Ah, oui.
Je n'ai pas eu le temps de raconter le 18 juin quand je suis venue avec Jean-François Laporte,
oui,
à propos des roses. Vous savez qu'on a présenté un livre sur l'histoire de la famille Guillot, célèbre créateur de roses français.
Mm-hmm.
Alors, ça se situe pendant la Grande Guerre. En 1914, un certain Pierre Guillot, un membre de cette famille, était le président de la revue « Les Amis des Roses ». Et alors, il est parti lui aussi en guerre à sa façon, en recensant dans son numéro d'automne 1914 des roses « boches », entre guillemets, je m'excuse, mais à éliminer des roseraies françaises. Et il proclamait, étendons les hostilités jusqu'aux fleurs. Et alors, la France, qui était le nom d'une rose créée en 1867, qui est considérée comme la première rose moderne, était évidemment à l'honneur, et c'est celle qu'on offrait le plus, parce qu'elle était triplement française de nom, d'obtention et de nature. Et voilà une très jolie petite anecdote. Une jeune femme écrit dans son journal à la date du 17 juillet 1916 qu'elle a reçu un mystérieux envoi de roses, la France, et ça l'intrigue beaucoup parce qu'elle n'a pas de nouvelles de son mari. Or, s'il est mort, il ne peut pas lui envoyer de roses, et s'il est prisonnier, elle se demande pourquoi il ne lui écrit pas. Mais elle prend ça quand même comme un gage d'espoir parce qu'en plus, c'est la date de leur fiançailles. Et puis, le 30 novembre 1918, eh bien, le mari est revenu d'Allemagne, il était effectivement prisonnier, il ne pouvait pas écrire, et voulant donner des recommandations à un camarade rapatrié, il n'avait eu que le temps de lui crier l'adresse de sa femme, et ceci, envoyez-lui des roses, la France, pour le 17 juillet. C'est mignon, non ?
C'est ravissant.
C'est beau, c'est très émouvant.
Oui, oui, c'est mignon. C'est mignon.
Voilà, eh bien, je vais m'en tenir là en souhaitant un très, très beau début d'été, déjà entamé à nos auditeurs.
Merci, ma chère Cécile.
Alors, on a rendez-vous.
Donc, on se revoit le 13. Hein. Voilà. Alors, vous serez sur place, le 13, là ?
Je serai là, je serai là.
Eh bien, c'est impeccable.
Voilà.
On va commencer à parler des fleurs d'automne, hein, parce qu'on va... Ça va vite tourner, hein. Ça va vite tourner avec les chaleurs qu'on a, là.
On va parler de la Sainte Vierge, ça sera la veille du 15 août.
Eh bien, j'espère bien. Non, ça sera l'avant-veille, mais c'est bien. Ça sera très bien, Cécile. Alors, on se fait une joie de vous voir de vous entendre le 13 en direct et non plus au téléphone.
Merci infiniment.
Au revoir, et merci de tout ce que vous nous avez dit, Cécile. À tout ou bientôt.
Merci.
Voilà.
Donc, à bientôt.
À bientôt.
Bonne soirée.
Voilà, c'était donc Cécile Adem qui nous a fait sa petite chronique. Alors, cette fois-ci, évidemment, par téléphone, puisqu'elle n'est point là, mais elle sera là le 13. Alors, vous aviez Guy et l'abbé Cellier. Je vous donne encore 3 minutes pour dire ce que vous aviez à dire.
Chacun, bien sûr.
Oui, monsieur l'abbé. Donc, chez Clovis, vous vous intéressez aussi au dessin animé.
Voilà. Donc, nous avons fait une première tentative parce que de dessin animé. C'est évidemment là aussi un énorme investissement tant financier que humain et de temps, parce que là aussi c'est une dimension que les jeunes peuvent regarder et qu'il faut sur lequel il faut essayer aussi d'être présent avec nos valeurs et avec notre esprit. Donc nous avons fait un premier essai donc d'un dessin animé à partir de l'œuvre de Petit Ange. Donc nous avons fait 12 épisodes de l'histoire de Petit Ange en dessin animé. C'est un gros travail. Il y a certainement des petites faiblesses et des petites limites, parce que c'est la première fois qu'on faisait ça et que ça demande évidemment une compétence, une formation. Mais donc, je crois que c'est tout à fait honorable et sérieux. En tout cas, ça plaît aux enfants. Mais je crois que ça soit en matière de dessin, donc de livres illustrés, que ça soit en matière de bande dessinée, que ça soit en matière de dessin animé, de tout ce qui touche à l'illustration générale et à l'image, je crois qu'il faut que les catholiques, il faut que les Français soient présents et ne laissent pas. Il paraît 2000 nouvelles bandes dessinées par an. C'est quelque chose d'énorme. Il en paraît une dizaine de bandes dessinées chrétiennes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est l'équation à connaître. Il faut, avec nos moyens, il ne faut pas essayer de se dire qu'on va concurrencer les gens qui ont le fric et qui ont les gros journaux et tout ça en leur faveur. Mais enfin, je crois qu'il faut être présent pour que notre jeunesse ait de bonnes lectures, ait des choses intéressantes. Et ce à quoi je suis attaché, actuel. Il faut un patrimoine, et il y a des gens qui le rééditent, et c'est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait une littérature, des dessins animés, des bandes dessinées d'aujourd'hui pour répondre à... Je redonne cet exemple parce que je crois qu'il est parlant d'une enfant à qui on dit « Attention, ça c'est des manouches, faut se méfier avec leur grosse Mercedes, etc. » Et l'enfant qui dit « Dans les livres que vous me faites lire, parce qu'elle ne lisait à l'époque que des livres d'avant 1960, les bohémiens sont en carriole à cheval et ils tressent des paniers. » Ben, le monde n'en est plus là et il faut le savoir. Il faut savoir qu'il y a des problèmes de drogue, qu'il y a des problèmes de violence.
Heureusement pour la maison Mercedes, quand même.
Voilà. Mais je crois que ça c'est quelque chose qui pour moi comme éditeur m'anime beaucoup, c'est effectivement de donner aux jeunes d'aujourd'hui des livres profondément inspirés de nos valeurs, profondément chrétiens, catholiques, français, mais actuels. Qui s'insère dans, je dirais, les livres de Bergeron, par exemple, qui traitent de problèmes actuels, qui traitent de des questions de l'immigration, qui traitent des questions de façon simple, facile, pas noire, comme tout ce qui se fait aujourd'hui est très négatif, mais enfin qui fait que les jeunes soient enfin informés et éclairés.
Oui, il faut que...
Encore un mot,
oui, absolument. Il faut aussi que les éditeurs de bande dessinée chrétienne...
Je rappelle que tu reviens le 13 août. Hein.
Oui.
Bon, d'accord. Alors, donc, on va prendre une heure.
Mais on a tellement de choses à dire puisque les médias ne parlent pas du tout de bande dessinée chrétienne.
Je peux revenir le 13 août, il n'y a pas
aussi,
de problème.
Aussi, vous êtes volontiers invité. Oui, je voulais dire que...
Ah, mais c'est monsieur Décile, monsieur chez lui.
J'ai ma petite rubrique qui est dans ton émission.
Elle est terminée, ta rubrique, depuis qu'on est tombé à la nuit.
Non, mais je voulais terminer en disant que la bande dessinée est un extraordinaire moyen d'évangélisation. La bande dessinée chrétienne est un extraordinaire moyen d'évangélisation. Et je pense que les éditeurs de bandes dessinées catholiques ou protestantes ne se rendent pas compte du média qu'ils ont là entre les mains. Et il faut aussi que les éditeurs de bandes dessinées chrétiennes soient présents sur les salons de la bande dessinée comme Angoulême et qu'ils témoignent de leur foi. Et moi je me bats sur cette radio et sur d'autres pour qu'on parle de bandes dessinées chrétiennes. et aussi sur les chaînes de télévision. Mais les chaînes de télévision, apparemment, ont des boules qui dans les oreilles et ne voient pas.
Si M. Labbé est en train déjà de faire des dessins animés, après il va faire des longs métrages, après il va financer les films de Mel Gibson, et après on va avoir des chaînes de téloche.
Voilà, pourquoi pas. On a déjà une radio, c'est déjà une chose importante.
Tout à fait.
C'est vrai que nous, nous n'avons pas 25 millions de dollars à mettre, mais si Mel Gibson a gagné 25 millions de dollars pour le mettre un film sur la Passion du Christ, c'est une bonne chose. Je crois que c'est une bonne chose, et je crois qu'il faut aller de l'avant. Nous sommes souvent chien battu, ah ben on n'y arrivera jamais.
C'est un meilleur investissement que la bourse, que le bon Dieu nous a dit que tout vous sera rendu au centre. Voilà.
Je crois qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut avoir peur de rien et que nous avons, que nous pouvons, disons, gagner, c'est un autre problème, mais nous pouvons progresser, nous pouvons faire beaucoup de choses avec audace et avec modernité dans le bon sens.
Mon cher abbé, les batailles qu'on est sûr de ne pas gagner sont celles qu'on n'engage pas.
Voilà, mais je crois en même temps qu'il faut que le public réponde à cela. Parce que si on prêche dans le désert, je veux dire, nous avons édité donc 60 livres de jeunesse. C'est un investissement colossal. On se rend pas compte de ce que c'est, mais c'est un investissement colossal. Il y a l'édition des livres, payer les droits d'auteur, tout ça. Bon, c'est énorme. Si les lecteurs se disent, c'est gentil, etc., et ne nous aident pas. Même si on a des défauts, des limites, etc., mais nous aider pour qu'on fasse mieux, demain, pour que petit à petit les gens se disent tiens, ça a l'air pas mal, les auteurs viennent, les dessinateurs viennent, etc. Et en même temps, les dessinateurs, s'ils ont un peu d'argent pour vivre, ils peuvent progresser dans leur dessin, etc. Je crois que c'est important.
Tout à fait. Alors, l'adresse de la librairie.
La librairie France Libre.
C'est un petit peu votre dépôt parisien.
Voilà, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, à côté de Saint-Michel, à côté de Notre-Dame.
Donc ouvert tous les jours, du lundi au samedi,
de 10h à 19h, sans interruption, pendant tout l'été. Donc les gens qui se trouvent sans femme ou sans mari à Paris, s'ennuyant, peuvent aller là et passeront...
Et surtout, sans enfants.
Voilà, sans enfants.
Parce que s'il y a beaucoup de livres pour la jeunesse, vous emmenez les enfants là-dedans, vous les prenez pour l'année. Hein.
Voilà, et donc ils pourront passer 3 quarts d'heure à regarder des milliers de livres à leur disposition. Ensuite, il faudra peut-être passer à la caisse, mais ça, c'est un autre problème.
Il faut toujours passer à la caisse. Tout se termine toujours à la caisse, si puis-je dire. Bien.
Et alors, nous recherchons toujours des auteurs et des dessinateurs, des illustrateurs et des dessinateurs de bande dessinée.
Moi, je veux bien vous faire des dessins, mais je ne sais pas dessiner.
Non, mais on vous en parlera, puisque vous m'invitez le 13 août. Je pense qu'on pourra parler, justement, de la spécificité, ce qu'est un dessinateur de bande dessinée, ce qu'est un illustrateur.
Je vous autorise, mon cher, à réinviter l'abbé Cellier.
Voilà, et que dire encore que la bande dessinée est un art. C'est le 9e art.
Mais on remercie Monsieur Amiche et de son soutien. C'est une des rares émissions où il soutient, où il y a un soutien, un certain soutien de la bande dessinée chrétienne. Oui,
sur Radio Notre-Dame aussi, où je sévis aussi, le samedi à 7h45, vous entendrez parler de bande dessinée chrétienne.
Ah bah tiens, faut acheter le coup de sur Radio Notre-Dame, c'est bien.
Même pendant les vacances.
Ah bah c'est très bien, mon cher Guy. Bon alors, on se voit donc le 13 août.
On se voit le 13 août, merci Monsieur.
Monsieur Labbé Cellier aussi, si vous voulez, vous êtes le bienvenu.
Voilà. Je puis y venir, c'est bien.
Et bien alors, on vous remercie beaucoup de laisser votre place. Mais maintenant, vous pouvez rester si vous voulez, mais sur une petite chaise.
Non, je vais laisser ma place.
Nous avons encore des amis. J'avais tenu à ce qu'avant qu'on passe au sujet suivant, j'ai demandé à mes bons camarades de bien vouloir venir ce soir et de prendre place dans ce studio. Alors, s'il veut bien entrer, voilà. Si vous voulez bien entrer, mon cher, voilà, Jean-Baptiste Chaumeil, veuillez vous asseoir, mon cher ami. Donc, Jean-Baptiste Chaumeil, vous le connaissez, parlez bien près du micro. C'est un des, on peut dire, des cadres, enfin, j'allais dire un pilier, pas de bar, hein, mais un pilier du cœur Montjoie-Saint-Denis.
Et de cathédrale.
Et de cathédrale, oui, c'est ça. Guy a oublié quelque chose. Ça, c'est à moi, ça. Voilà, très bien. Et vous vouliez venir nous voir pour, malheureusement, une nouvelle triste dont on n'a pas encore parlé sur Radio Courtoisie. En tout cas, je n'ai pas entendu parler.
Oui, une nouvelle assez triste, c'est la disparition de Jean Bruel, qui était le patron des bateaux mouches à Paris. Et ce qui m'a fait venir, d'abord, c'est que vous ayez accepté, vous m'ayez invité. Et d'autre part, j'ai vu des articles absolument hallucinants dans la presse, expliquant, il faut dire que M. Bruel était en voiture, il était sur l'autoroute, il a été poursuivi ou approché par des voitures qui l'ont un peu mis sur le côté, et on lui a volé une mallette qui était dans sa voiture au moment où il était arrêté à un feu rouge ou à un péage. Et il a eu une crise, c'est un monsieur qui a 86 ans, et donc il a eu une crise cardiaque, et il en est mort. Et en lisant les papiers dans la presse, la grande presse nationale, dont vous avez un exemplaire devant vous, on comprend que puisque c'est un monsieur qui semble-t-il était très controversé, car patriote, royaliste, etc., bah 86 ans, il fallait bien qu'il disparaisse. C'est ce qui m'a un peu énervé, alors que en réalité, évidemment, il a 86 ans, c'est un monsieur qui était tout à fait patriote, c'était aussi le fondateur d'un réseau de résistance.
Ça, c'est, alors c'est peu connu, mais...
Avec monsieur Raoul Girardet.
Avec Girardet, donc il était quand même chevalier des Légions d'honneur. Vous me direz, bon, Légionnaire, bon... Ouais,
il y a d'autres, pour fait de résistance.
Bon, pour fait de résistance. Croix de guerre, 39-45, avec Palme. Et médaille de la résistance. C'est quand même un personnage extraordinaire. Il était également... bon, il a aussi travaillé beaucoup dans les services de renseignement français, enfin les bons, puisqu'il était de l'amicale des anciens membres des services spéciaux de la Défense nationale. Donc, chose tout à fait honorable.
Et il ne ressort des articles que des choses mauvaises, enfin des bisbilles diverses et variées. Or, c'est un monsieur qui était royaliste, qui était d'Action française avant-guerre, et qui a fait de la résistance, donc il a fondé un réseau de résistance avec Raoul Girardet, qui en parle longuement dans son livre, qui s'appelle Singulièrement libre. Et il a d'ailleurs été, au moment de la rafle du Veldiv, il est allé avec Raoul Girardet au Veldiv, voir des parce qu'il est avec une couverture, ils étaient membres d'un mouvement de jeunesse, ils ont pu rentrer dans le Veldiv, et ils sont allés voir des juifs, des familles juives, en leur proposant de les faire évader. Et aucune n'a voulu, parce qu'ils ne savaient pas, personne ne savait. Et donc, ils sont ressortis, ils ont continué la résistance, ils ont fait des passages dans les en zone libre, enfin avant, et ensuite, ils sont allés, il a fait des passages en Espagne et en Algérie, etc., etc. Ensuite, pendant, il a fondé son entreprise de bateau-mouche en 49, qui a bien prospéré. Puis il était, comme il était patriote, il était un ami de l'OS, qui était un mouvement de résistance aussi, et donc ça on l'en a voulu. Il faut dire que c'était un monsieur qui était assez courageux, extrêmement généreux,
assez facile, pas sa langue dans sa poche, hein.
Et comme disait très bien Jacques Perret, tous les gardiens de prison qui l'ont fouillé n'ont jamais trouvé le drapeau français dans sa poche. Il avait fait, juste au moment de la guerre d'Algérie, il avait, après 62-63, il avait ouvert une petite boîte de nuit sur une de ses péniches, et il avait mis un petit écriteau interdit aux personnes débraillées, aux ministres en exercice. Et un ministre passé par là, il a voulu rentrer. Et bien il s'est fait sortir. Effectivement, on ne voit plus de choses comme ça.
En plus, le ministre ne savait même pas lire. Voilà.
Et c'était un monsieur qui était extrêmement généreux. On peut dire mouvements patriotes,
tout le monde a eu quelque chose de lui.
Tout le monde de la tradition catholique, etc. Ont pu faire appel à lui. Et ont toujours été bien reçus. Et je voulais juste signaler donc que ces obsèques se passent demain à la Madeleine à 16h. Et il serait bien que tous ceux qui sont restés à Paris y aillent pour saluer quelqu'un qui a été un monsieur qui a participé à beaucoup de nos combats, qui a soutenu la presse de nos idées. C'est lui qui a soutenu aussi, par exemple, la fondation et l'avis du grand journal qui était Minute dans les années 60, etc., etc. Donc voilà, il ne fallait pas que ce grand monsieur s'en aille sans qu'on lui tire un coup de chapeau.
Sans l'occasion aussi de présenter nos condoléances à sa veuve, Nicole
Dupont,
qui reste, parce que je crois qu'il repartait précisément, c'est un homme qui travaillait énormément, qui prenait peu de vacances, et je crois qu'il repartait chez lui précisément à cette date-là pour fêter son anniversaire. Et voilà, il n'a pas pu le fêter.
Ah, et le Figaro d'hier, il y a une pleine page de Marocains.
C'est incroyable, parce que...
La
Fédération française, marocaine, espagnole de lutte et de catch, la Fédération des anciens catcheurs, les amis du vieux Souillac, la société Navellec, la société des transports marocains, enfin c'est invraisemblable, le président de l'appellation d'origine contrôlée de Limoux, ça, tellement il était dans des tas d'associations, de trucs extrêmement sympathiques, voilà, alors tout le monde lui met un petit mot d'adieu, je trouve ça tout à fait, avec des jolies expressions, un homme bon, généreux, attaché à ses racines, ça c'est moi qu'on puisse dire, homme de cœur et sympathique, un des combattants parmi les plus valeureux, disent les
gens, c'est très bien. Christian, Jean-Christian Pinault, vous vouliez dire quelque chose? Oui, parlez bien devant le micro, oui, tout à fait.
Excuse-moi, j'ai ce souvenir de l'arrivée du prince Alphonse, duc d'Anjou et de Cadix, et notre ami Bruel avait mis le drapeau, l'étendard fleur-de-lysée sur le bâtiment, pourrait-on dire, en l'occurrence, et il attendait debout, comme le capitaine, avec une plaque. Je ne sais pas comment on appelle cette partie de l'uniforme, mais qui est en acier, qu'on met autour du cou.
C'est un colbac.
Fleur-de-lysée.
Il
attendait le roi. Je me rappellerai toujours de cette image, cette image que je voudrais garder de lui.
Quand il a appris la mort du prince Alphonse, enfin notre prince Alphonse, il a mis le drapeau, qui était toujours le drapeau d'Île-de-France, qui est en fait le drapeau de royauté, il disait que c'était le drapeau des provinces de France, mais celui-là était tout à fait particulier, il l'a mis en Berne, le drapeau est resté pendant une semaine en Berne, et il s'en est expliqué d'ailleurs, en disant qu'il l'avait fait avec toute intention.
Il y a eu très peu de temps, il avait accueilli pour l'anniversaire de la mort de Bastien-Thierry, le paragouache avec les guides de Riomont, qui avait joué une scénette admirable, donc c'était un monsieur tout à fait généreux et courageux.
Il était courageux parce qu'il ne se laissait pas marcher sur les pieds, ni par l'administration, ni par les hommes politiques, ni par l'anti-France, ni par les syndicalistes, ni par les gauchistes, ni par rien du tout.
On pouvait toujours faire appel à lui. Je me rappelle au moment de l'anti 89, on était allé le voir pour. Il nous manquait des drapeaux pour décorer le. À l'époque, on pensait à la place de la Concorde. Et on était allé le voir. Il nous avait prêté une cinquantaine de drapeaux qu'il avait fait laver, etc. Sans rien. Je crois même qu'il avait dû donner aussi des sous pour l'organisation de.
Il en donnait. Un homme très 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 généreux, c'est un homme de notre famille qui a été rappelé dans des circonstances curieuses, peu encore pas tout à fait élucidées. Évidemment, il n'a peut-être pas été physiquement agressé, mais le stress qu'il a dû ressentir était tel que, évidemment, à cet âge-là, il nous arrive un truc comme ça aussi. Je ne suis pas sûr que le cœur tienne. Enfin, on en saura peut-être davantage. Merci beaucoup, mon bon Jean-Baptiste, d'être venu faire ce petit. Tout s'est bien passé pour l'affaire de Perret, toute l'exposition de Perret.
Très bien, très bien. On a eu des contacts formidables, des gens qui, notamment un libraire qui avait acheté le manuscrit de bande à part, nous a prêté des photos. Et les gens sont venus avec des éléments variés et cette exposition était complète à la fin.
C'est l'exposition qui se fait au fur et à mesure, c'est extraordinaire.
Tout à fait à la fin. Et on va faire bien. Des grandes choses à la rentrée, je pense.
Eh ben, merci.
Et signaler aussi que le Cœur Montjoie-Saint-Denis faisait sa rentrée le 3 septembre. Le mercredi 3 septembre, en notre siège social.
À la mer agitée, donc 21 rue Campagne première, Paris 14e.
Qui reste.
Métro, à Campagne première.
Métro Raspail. Et elle reste, notre siège social, donc reste ouvert jusqu'au mi-août.
C'est très bien.
Donc tous ceux qui sont. Il y a un poste de soif.
21 rue Campagne. Par ces grandes chaleurs, quand même, il faut penser à ce qu'on soit. Parce qu'on dit toujours la faim dans le monde. Mais la soif dans le monde, qui s'en préoccupe? Personne. Non, mais c'est vrai.
On se déshydrate. Hein, c'est ce que c'est. Bien, merci beaucoup.
Merci de ce petit hommage à Jean Bruel, je suis touché que tu aies l'idée de le faire et je te remercie beaucoup. Merci beaucoup
à et
à tout bientôt. Voilà. Alors maintenant, si tu veux rester avec nous, tu peux te mettre sur une petite chaise. Mais que nous avons un dernier invité qui est arrivé, qui va s'asseoir sur un vrai fauteuil et qui a un vrai micro, parce que ici, monsieur, on fait de la vraie radio. Allez voir. Bon. Alors maintenant, je salue la présence dans le studio. Alors ça, c'est une délégation considérable du centre d'études historiques. Ça va pas mieux. Du cher docteur Thierry Jordan, qui va à la fin du mois d'août. Ne parlez pas, on entend tout. Bon. Qui va à la fin du mois d'août tenir sa 10e session et il est venu accompagné de deux intervenants qui sont des intervenants d'ailleurs relativement habituels parce que presque chaque année vous les avez, l'abbé Christian Philippe Chanu, bien connu de nos auditeurs et fort apprécié pour son double habillage, et l'ami Jean-Christian Pinault qui aussi nous a fait l'amitié de venir quelques fois ici sur Radio Courtoisie. Alors cette année le thème de la 10e session du Centre d'études historiques auquel j'invite évidemment tous nos auditeurs. Je ne dis pas tous les auditeurs parce qu'ils ne tiendraient pas tous évidemment dans le centre d'études historiques, mais enfin le plus grand nombre possible serait bienvenu, encore qu'il y a déjà force réservation. Le thème de cette année sera la restauration. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner, cher docteur, quelques précisions sur ce thème et pourquoi la restauration?
Oui, bonsoir Daniel Amiche et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices.
Cette année, le thème.
10 ans auditeurs, vous, en bon français, vous embrassez aussi oui, les auditeurs.
Bien entendu, bien entendu. En choisissant la restauration pour la fin du mois d'août, j'ai pensé choisir une période intéressante de l'histoire de France parce que c'est une période charnière. Mais au fond, on peut en dire autant de tous les thèmes que nous avons traités depuis 10 ans.
C'est toujours passionnant.
Nous avions pris Clovis et le baptême de la France, c'était une époque charnière intéressante aussi. France, qu'as-tu fait de ton baptême ? Nous avons pris Henri IV, c'était une époque charnière aussi, où les Bourbons succédaient aux Valois, et sur le plan religieux, on pouvait se poser des questions aussi sur ce qui se passait dans le fort intérieur d'Henri de Navarre devenu Henri IV. Nous avons choisi comme thème Louis XIII, l'Europe et les Bourbons, ou les Bourbons et l'Europe, et là aussi c'est un virage qui est en face de nous actuellement.
Racine.
Enfin, les thèmes ont varié chaque
Racine
été.
Le grand cercle.
Et cela depuis 10 ans, si bien que le 28 août prochain, à l'ouverture, 28 août à 17h, et la fermeture sera le dimanche 30 à 17h, j'aurai le plaisir d'être à la fois organisateur et consommateur, puisque j'ai la possibilité d'écouter tous les conférenciers qui défilent à la tribune, au micro, et qui sont tous plus prestigieux les uns que les autres. Je suis heureux d'avoir aujourd'hui la présence dans le studio de Monsieur l'abbé Chanu et de Christian Pineau, qui, depuis le début de notre expérience, ont marché avec nous, ont toujours répondu présent. Maintenant, est-ce que ces choses-là se passent dans la convivialité et dans l'amusement? Je suis mal placé pour le dire, puisque je suis organisateur. Ça me fait toujours doucement sourire lorsque je vois des organisateurs qui disent que leur colloque va se dérouler au futur dans une grande convivialité. Qu'en savent-ils? Ou qui, dans les comptes rendus, se gargarisent en disant qu'il y avait une grande convivialité qui a régné du début à la fin. Moi, je suis mal placé pour le dire. D'autres sont mieux placés que moi. En revanche, ce que je sais très bien faire, c'est donner l'adresse à laquelle on peut écrire et le téléphone et le téléphone où l'on peut me joindre pour écrire.
C'est au centre de ça se passe au centre de l'étoile, mais il perd jamais l'étoile du Nord.
Donc, oui. À condition d'avoir un stylo sous la main et une feuille de papier. Donc on peut noter que on peut m'écrire Docteur Jordan, J-O-R-D-A-N, Centre d'études historiques, au numéro 72 rue de Flore, 72-00 Le Mans.
000
Le Mans.
C'est fastoche.
Oui.
72 rue de Flore, 72 000 Le Mans.
Le Mans. Et l'on peut me téléphoner au 02-47-66-61-02. Je répète, au 02-47-66-61-02.
Alors, moi, je me repose une petite question parce que vous n'avez pas répondu à la première que j'ai posée. Vous avez fait une question. Je vois que là, vous êtes un homme politique accompli. C'est pourquoi la restauration? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans la restauration? Je pourrais dire deux mots là-dessus.
Une multitude de choses, oui. Comme de coutume, nous examinons la restauration sous toutes les facettes qu'elle a présentées, et sous tous les angles sous lesquels on peut l'étudier, qu'il s'agisse de l'angle artistique, avec la peinture, Géricault, le radeau de la Méduse. Tout le monde sait que la Méduse a sombré pendant la restauration et que la peinture a été faite immédiatement, dans un délai très court, par Géricault. Donc, sous l'angle de la peinture, on peut aborder la restauration. Sous l'angle de la religion, monsieur le doyen Chanu le traitera. Sous l'angle de l'héraldique, le baron Pinoteau nous parlera des aspects symboliques de la royauté sous la restauration. La marine, à chacun de nos thèmes, chaque été, la marine a été abordée. La marine sous Henri IV, etc. Aujourd'hui, ce sera la marine sous la restauration depuis... la chute de l'Empire napoléonien jusqu'à l'indépendance de la Grèce. Et il y a aussi un professeur de l'Université de Bordeaux, Christian Huetz de Lemps, qui nous parlera, le titre est un peu long mais évocateur, c'est « Dans le sillage de Bougainville et de la Pérouse, les grands voyageurs français dans le Pacifique sous la Restauration, expédition scientifique
et commerciale de Fraissinet à Dumont-d'Urville, de Dupéré à Bougainville, de Camille de Roquefeuille à La Place, etc. Et sa fille Claire Huetz-de-Limpf nous parlera des missions d'évangélisation sous la restauration outre-mer. Outre-mer et principalement dans le Pacifique. Ainsi de suite. Donc vous voyez que sous tous les angles, on peut étudier chaque période de l'histoire et chaque fois on se dit, tiens, c'est la plus intéressante, c'est encore plus intéressante que les autres. Moi, si je trouve enrichissant d'écouter 20 conférences pendant 4 jours, 3 jours et demi, c'est parce que à l'ouverture, je ne sais pratiquement rien de ce qui sera dit. J'ignore tout de ce sujet, je ne suis pas historien du tout. Et en revanche, à la fin de la session, je ressors plus instruit qu'au début. C'est ce que je souhaite à chaque personne qui vient. Et là, beaucoup de personnes viennent là, non pas parce qu'elles sont royalistes, elles viennent parce qu'elles ont un peu de curiosité d'esprit et qu'elles veulent savoir ce qui s'est passé à telles époques et si on peut en tirer de leçons pour aujourd'hui et pour demain.
Oui, je sais pas, on régimente pas, hein, c'est les gens, ils vont parce qu'ils sont intéressés
sûr,
par les termes,
bien sûr,
et la puis, façon dont les auteurs...
Le chiffre de 20 conférences peut paraître énorme à certains auditeurs, mais tout est facultatif, ils peuvent s'absenter, ben, le temps d'une conférence et aller philosopher dans le parc. Il y a un parc verdoyant, même en temps de canicule, on peut se mettre à l'ombre et parler de choses et d'autres. Tout est facultatif. Sur ce, je ne veux pas monopoliser les micros.
Non, mais on va redonner d'abord l'adresse du centre d'études historiques. Donc c'est 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. Si vous écrivez à cette adresse, on vous renverra le programme,
la documentation complète
avec tout ce qui se passe sur les tarifs, les moyens d'accès,
enfin, avec une photo en couleur aérienne, photo aérienne du centre de l'étoile où se déroule le congrès.
Alors donc, et puis voilà, le téléphone aussi, pour ceux qui souhaiteraient non pas utiliser les commodités de l'écriture, mais celle de la conversation, le 02 47 66 61 02. 02 47 66 61 02. Jean-Christian Pinault, permettez, on va garder le bon père pour la fin de cette séquence. Jean-Christian Pinault, de quoi traiterez-vous cette année?
Ah, écoutez, deux thèmes ont été retenus.
Parlez bien dans le micro.
Deux thèmes ont été retenus. J'avais envie de parler de la charte, mais apparemment d'autres beaucoup plus compétents que moi, éminents historiens, le feront. Alors, on a retenu avec le docteur Jordan deux thèmes. Le premier, qui est le problème de la succession pendant la Restauration, qui est un problème qui est peu abordé et qui pourtant a laissé un certain nombre de traces dans la presse de l'époque et dans un certain nombre d'ouvrages d'historiens et de chroniqueurs. Donc la position est de Louis XVIII avant la naissance de l'enfant du miracle, le comte de Chambord, ce qu'il avait demandé que les plus loyaux des partisans des Bourbons écrivent et défendent dans la perspective où il n'y aurait pas d'héritier mâle à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passerait ensuite? Et après, la position...
Là, il y avait à dire qu'à ce moment-là, on sait que Louis X n'aura pas d'enfant, sait que Charles X n'en aura plus.
Bien qu'on veuille leur marier, vous savez, il y a un épisode...
Oui, on veut leur marier, mais
c'était pas très sérieux, oui.
Le duc de Berry vient de se faire trucider, voilà. Il reste le duc d'Angoulême, l'aîné des enfants de...
Qui lui aussi n'aura pas d'enfant.
Qui lui-même, on sait déjà qu'il n'en aura pas, parce qu'il a épousé...
Voilà.
Pas à cause de ça, il a épousé sa cousine Germaine, la duchesse d'Angoulême, l'infortunée
orpheline du temple.
Donc, c'est-à-dire que ça se présente quand même pas si bien que ça. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, généralement, on se repose les questions, on va chercher les vieux mémoires.
Il n'y avait aucun héritier mâle dans la famille royale, et aucun en perspective, sauf à ce que cet enfant que la duchesse de Berry attendait au moment de l'assassinat de son mari soit un garçon. Et alors, bon, même jusque-là, et jusqu'à, y compris la naissance, la question se pose entière, qu'est-ce qui se passe au moment où s'éteindra le dernier mâle.
N'y répondez pas. Si les gens veulent savoir, ils iront. Voilà.
Donc c'est toute cette affaire.
Au centre d'études historiques, je souligne que c'est une question qui est d'actualité. Parce qu'elle se pose à peu près dans les mêmes termes
aujourd'hui. Mais elle n'a cessé de rebondir et de se reposer à travers des vicissitudes de l'histoire moderne. Mais en tout cas, c'est un très intéressant sujet. Par la suite, Charles X aura aussi un certain nombre de... Alors, certains comportements à cet égard qui sont très intéressants à...
Vis-à-vis de la succession espagnole, parce qu'elle
est aussi celle
de la Maison de France, et là, ça lui plaît pas.
Absolument, parce qu'on s'adresse à lui en tant que chef de la maison sur la question de la succession espagnole, puisqu'effectivement, elle remet en cause un certain nombre de conséquences, y compris de conséquences, d'ailleurs, diplomatiques et politiques du traité d'Utrecht, ce qu'un certain nombre d'orléanistes, à commencer par le duc d'Orléans lui-même, ne manqueront pas de souligner. Nous allons aborder donc tout ce sujet tout à fait intéressant et souvent méconnu. Et alors, le second sujet, là, on en parle très souvent avec Thierry Jordan, et ça, c'est très intéressant quand on trouve un petit peu de temps pour en parler, c'est l'affaire d'Alger et la restauration. Alors, évidemment, l'affaire d'Alger, c'est le dernier cadeau du roi à la France, la conquête d'Alger, la prise d'Alger, mais ce qu'on ne sait pas très bien, c'est toujours, c'est que il avait été prévu que dans le trésor du dey d'Alger, trésor constitué par les rapines de siècles et de siècles opérées par les barbaresques, et que c'était la caverne d'Ali Baba par excellence, on prélèverait sur cette caverne d'Ali Baba l'équivalent des montants engagés par l'expédition. Et qu'on ramènerait dans une frégate de la marine royale, c'est tout cela au trésor public à Toulon. Et vous voyez qu'on était très chevaleresque à l'époque. On envisageait simplement de se rembourser de l'expédition. Or, entre-temps, évidemment, Charles X est renversé et son successeur n'a pas tout à fait la même attitude, puisque c'est un sujet que beaucoup d'historiens, y compris algériens d'ailleurs, étudient de temps à autre, rarement, mais de temps en temps. Il se trouve que finalement, si d'une part on a bien envoyé au Trésor public à Toulon un certain nombre de pièces qui ont couvert les frais de l'expédition, tout le reste du trésor a disparu, mais dans d'autres comptes que ceux du trésor public. Je n'en dirai pas plus.
Et vous donc, le saurez, enfin, vous avez déjà deviné. Enfin bon, voilà. Vous le saurez davantage.
Sur l'origine de la fortune de la famille d'Orléans.
Oui.
Et quand on sait que tout ça est venu simultanément avec la captation de l'héritage Condé.
Ah, ça c'est intéressant.
Enfin, quand on pense que tous ces événements sont concomitants à peu près, ça laisse quand même à réfléchir et on n'y pense pas souvent en fait. Bon, vous me direz que ça n'empêche pas de dormir tous les matins.
Mais enfin, non, mais
c'est un sujet quand même très intéressant.
Ce n'est pas à négliger.
Voilà.
Ce n'est pas à négliger.
Voilà.
Mais vous voyez que bien mal acquis ne profite jamais, voilà. Puisqu'il apparaît qu'aujourd'hui, les Orléans, si malheureusement, vous... n'ont plus de sous.
Bah, oui, enfin, ça, c'est aujourd'hui, oui, mais à l'époque. Alors, vous me permettrez juste d'ajouter qu'effectivement, on va fêter le 10e anniversaire de cette université d'été, dont Thierry Jordan avait eu l'idée. On s'était vu un certain nombre en 91 ou 92 dans le Poitou, et puis toute cette idée de se voir l'été faire comme font les grands partis, n'est-ce pas, les gens sérieux qui réunissent des universités d'été, on s'est dit pourquoi pas nous, et en fait le centre d'études historiques a vu donc le jour il y a 10 ans, et faut dire que le nombre de participants est assez étonnant pour ce genre d'activité, parce que en général ça, en plein été, ça ne mobilise pas grand monde, mais je vois que, alors qu'on a commencé une petite trentaine la première année, on est monté à 80 au bout de 2 ans, et le grand sommet étant en 1998, le thème ayant été Henri IV, et où nous avons eu évidemment l'honneur de la présence, de la visite de Monseigneur le Duc d'Anjou. Là, nous avions plus de 200 participants, même 250 à la messe de clôture, donc ça avait été un grand moment, et depuis, on retrouve toujours 180 à 200 personnes. L'année dernière, Monseigneur le Duc d'Anjou est également venu, il a fait l'honneur de sa présence pendant 2 jours, il y avait 220 participants à peu près l'année dernière. Alors, je n'ai pas prévu qu'ils viennent cette année, encore qu'on ne sait jamais. Mais je peux par contre vous dire, avec si Dieu continue à lui prêter suffisamment de bonne santé, Madame la Duchesse d'Anjou et de Ségovie nous a confirmé encore aujourd'hui qu'elle serait présente le week-end du 30-31 août.
Et la grand-mère du prince.
Et la grand-mère du prince, oui, absolument. Et qui a, elle, constamment, pas tous les ans, mais très souvent, presque tous les ans, est venu honorer de sa présence ces universités d'été.
Merci Jean-Christian Pinault. Alors donc, je rappelle, Centre d'études historiques, 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans, et je redonne toujours le téléphone, 02 47 66 61 02. J'ai l'impression, Jacqueline, que vous êtes là depuis la reprise, et je ne vous ai même pas dit bonsoir.
C'est pas grave.
Mais même pas dit bonsoir, mais c'est quand même invraisemblable. Elle est belle comme tout, regardez, on dirait un petit pain d'épices de fête à neuneux, hein. Et on en mangerait. Oui.
J'ai quelques messages justement au sujet de Jean Bruel. Alors c'est un auditeur qui nous dit: je représente l'association ACIMAD, défense des détenus politiques pour l'Algérie française. Nous adressons par le biais de Radio Courtoisie toutes nos condoléances à la famille de Jean Bruel, dont nous saluons la mémoire pour tout ce qu'il a fait pour nos camarades de combat. Et c'est signé Jean-Paul Leperlier.
Très bien, voilà, voilà. Un message de sympathie.
Et
pour
oui, bon, c'est vrai qu'on en a parlé chez Jean Ferré lundi, il avait annoncé le décès, et M. Jean Bruel avait organisé sur sa péniche une exposition consacrée aux monastères serbes du Kosovo, qui sont actuellement détruits par les Albanais.
Tout à fait.
Protégés par M. Kouchner, c'était, voilà.
Pas les monastères,
non,
les Albanais.
Non, les Albanais, oui. Et puis, pour M. Pinault, je suis Jean... Yves Ponce, président du cercle Jacques Bainville.
Oh, je vais vous appeler, mon cher docteur, j'ai complètement oublié. Vous allez venir au mois d'août pour parler
de
vos manifestations.
Je suis très heureux de vous entendre sur Radio Courtoisie, où vous ne venez pas assez. Vous avez parlé d'une pièce métallique que portaient certains soldats au-dessus du cou, qui s'appelle un Oskol. C'est ce que vous aviez
dit
tout à l'heure.
Voilà, mais cher docteur, ça va être votre tour dans 15 jours.
Voilà, c'est ce que j'ai dit. Jean Ferrand a parlé lundi.
Très bien. Eh bien, donc, nous allons parler. Alors, monsieur l'abbé Chanu, maintenant, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire religieuse. Et alors, qu'allez-vous faire cette année? Quelle lumière allez-vous nous apporter? Je parle des bonnes lumières.
Moi, je vais parler d'une chose ordinaire, qui sont les nominations épiscopales sous la Restauration, qui sont extrêmement nombreuses, parce que l'épiscopat de l'Empire finit bien par mourir, encore qu'il y en a qui dure jusque sous le Second Empire. Les gars, ils se le sont tapés de 1802 à 1852. Mais... d'habitude, bon, ça... Donc, et puis les nombres des diocèses s'accroissent. Comment ces gens sont nommés? Bon, ça permet de faire le passage de la grande aumônerie impériale, qui se tenait plutôt très bien, à la grande aumônerie royale, qui se tenait encore mieux, mais avec le même personnel, quasiment, des différents... du sort qu'aura le concordat de 1802, de l'avortement d'un concordat de 1816, mais dont on obtient des choses quand même en 1817. Bon, c'est une présentation générale de l'Église à travers les nominations épiscopales. Ça n'a rien de bien extraordinaire, mais ça doit être fait. En revanche, la deuxième conférence que je ferai traitera de la loi sur le sacrilège, ce qui est une chose
fameuse,
absolument pas évoquée en aucun mot, parce que et je montrerai d'abord que dans la Restauration il y a une cohérence. La cohérence tient que la loi sur le sacrilège, si elle a reçu son nom sous Charles X, elle a bel et bien été votée à la Chambre des Pairs sous Louis XVIII, et que ce que je voudrais essayer de montrer, mais je pense que tout le colloque va dire, toute l'université d'été en question, on va dire la même chose, c'est que la Restauration n'est pas une parenthèse dans l'histoire de France. Généralement, quand on présente la Restauration, si tant est qu'on la présente, c'est une parenthèse malheureuse que la monarchie de Juillet va fermer, rendant la France au courant normal de son histoire. La preuve, on ramène l'empereur aux Invalides. Or, la Restauration n'est pas une parenthèse. Elle fait partie de l'histoire de France et elle garde les mêmes grandes lignes de l'histoire de France sont gardées en définitive. Donc il y a une cohésion, et il y a une cohésion de la Restauration entre elles. Car si tant est qu'on présenta la Restauration, on dirait que Louis XVIII, c'est pas si mal, mais Charles X, c'est lamentable. Or, entre Louis XVIII et Charles X, il y a une continuité. Et c'est cette continuité qui est importante. Alors, il est vrai qu'on a pris le terme de la Restauration, cher docteur, vous ne direz pas le contraire, pour nous faire plaisir aussi, quoi, parce que on avait écumé beaucoup de thèmes pressés par l'actualité, les multiples centenaires que la République nous fait célébrer. Et puis on se dit quand même la Restauration, on voudrait quand même pas mourir sans avoir traité la Restauration, parce que 2015 c'est loin, et mine de rien nous vieillissons, enfin surtout vous docteur, mais nous vieillissons, et on se dit oh, faut quand même traiter la Restauration et l'histoire religieuse de la Restauration et, en règle générale est une chose très intéressante, parce que on prend réellement la dimension de ce qu'est l'Église ressuscitée faiblement mais réellement sous l'Empire, et on la porte à un paroxysme. C'est-à-dire que le 19e siècle religieux, qui a été un grand siècle des âmes, pour copier Rops, mais Rops parlait du XVIIe, qui a été un grand siècle des âmes, a bien regardé bien plus grand que le XVIIe siècle, avec moins de génie, mais avec beaucoup de tâcherons appliqués qui ont fait les choses. Le XIXe siècle est un siècle de foi, est un siècle d'analyse de la foi, est un siècle de science de la foi, est un siècle de propagation de la foi, et un siècle populaire de la foi. Que dire de plus? Enfin, je veux dire, à la fin du XIXe siècle, on fusille peut-être l'archevêque de Paris, mais les Sœurs de la Charité, les Frères des écoles chrétiennes, sont libres à Belleville, et continuent leur œuvre. Or, tout ça ne serait pas arrivé en 1871 si la Restauration n'avait mis sur pied une église. Aujourd'hui, on dirait une église nouvelle, parce que c'est la continuité de l'église de toujours, comme disait l'autre, qui est une église jeune. Elle n'est pas nouvelle, mais elle est jeune. Le modèle du prêtre de la Restauration, c'est le curé d'Ars. Personne n'ira la dire contre quoi que ce soit. Or, le curé d'Ars est effectivement très significatif de sa génération, et il appartient des générations où les ordinations sont énormes. C'est-à-dire que jamais... Après, on atteindra ce chiffre, bien que les populations augmenteront. De fait, ce curé-là, ce jeune curé-là, qui lit les journaux de la Restauration, qui vit dans la Restauration, qui est celui qui reconstruit la maison, va devenir le curé d'Agemur, opposé à Louis-Philippe, et qui chante avec grand cœur « Deposuit potentes décédées à tous les vers », si bien que qui vous savez demandera si on peut pas enlever ce verset du Magnificat, ce qui montre une grande connaissance de la religion. Ce sera le prêtre reconstructeur du Second Empire, et puis ce sera le vieux prêtre de la fin du XIXe siècle. Cette génération de jeunes prêtres, en définitive, a fait une église jeune, et l'église de la Restauration est une église jeune, et non pas une espèce de vieille bondieuserie qui sont dans un coin. Bon, c'est à peu près ce genre de choses que je voudrais montrer à travers une nomination épiscopale où effectivement on nomme des types pas toujours jeunes mais capables de comprendre que le monde a changé.
Et ben ça va être absolument passionnant. Déjà,
ça vous regretterez pas le voyage, moi je vous le dis.
Entre l'exposé de Jean-Christian Pinault et l'exposé de Christian Philippe.
Et on est les moins bons, hein.
Oh, oui, il y en a beaucoup. Alors bon, il y a quand même, je vais dire quand même la liste, parce que c'est important. Oui. Florence de Baudu, évidemment, tout le monde connaît, ou Baudus, on se met Dus. L'un ou l'autre se dit ou se disent.
Vous avez fait un exposé sur le duc d'Enghien, l'année dernière.
Elle parle à Condé, Bon, Yves-Marie Berset connaît tout le monde, Odile Bordas, Jean-Pierre Brancourt, Michel Cartron, François Chasséran, Laurent Chéron, l'abbé Chanuc, bien entendu, le révérend père Jean-Charles Leroux, sera pas mal non plus, Jean-Paul Clément, le directeur de la maison Chateaubriand, Jean-Claude Drouin, Alexandre Gadi, le cher Alexandre Gadi, Géraldine Girard Lenin, Claire Wetz-de-Lamps, Christian Wetz-de-Lamps, Thierry Jordan, on entendra, Jean-François Labourdette, le père Augustin Pic, Jean-Christian Pouillot, Hervé Pinotto, Étienne Taimit et Emmanuel Varesquiel. Comme un joli petit plateau. Hein? Ah ben ça fait un joli petit plateau. Donc ça va être très bien. Donc je rappelle à nos amis auditeurs que cela se tiendra des 28 au 31 août. C'est placé sous le haut patronage du commissaire le prince Louis-Duc d'Anjou. 10e session du Centre d'études historiques. 72 rue de Flore, 72 000 Le Mans. Le téléphone c'est le 02 47 66 61 02. 02 47 66 61 02. Vous pouvez appeler même maintenant, donc, d'ailleurs. Et puis,
oui, on peut dès à présent.
Et même demain en diffusion, vous pouvez appeler aussi.
Certainement. Si je peux ajouter un détail pratique, pour les personnes qui ne connaissent pas le Centre de l'Étoile, qui ne sont jamais venues, cette oasis de verdure que j'ai décrite tout à l'heure est située en plein centre de la ville. Et les voyageurs qui descendent du TGV, ils auront mis 50 minutes entre Paris, Montparnasse et la gare du Mans. Ensuite, ils mettront 5 ou 6 minutes en taxi de la gare jusqu'à notre oasis de verdure. Et les repas sont servis sur place, au même endroit que les conférences, et chaque jour, une messe est célébrée sur place également. Merci.
Ben, c'est de rien, c'est un plaisir que de vous recevoir. Bon, messieurs, vous n'avez plus rien à ajouter. Ben, je vous invite maintenant à rester un petit peu dans notre compagnie, puisqu'on reçoit une personne très, très, très sympathique, qui fait aussi un très bon travail, et je vous invite à l'écouter, et peut-être que ça pourrait vous donner des idées. Vous pourriez aussi peut-être l'inviter à venir dire quelque chose dans une prochaine
session, c'est Henri Tessier, qui est le président d'une association qui s'appelle l'association Vérité pour la Vendée. Alors, vous me direz encore, une association, il n'y a pas tant que ça, des associations Vérité pour la Vendée.
Non, mais des associations sur la Vendée, il y en a, plus ça va, plus j'en découvre. J'ai le sentiment quand même que ça vaudrait même le coup de créer une association de tête qui regrouperait
confédération
d'associations, et là je crois qu'on aurait un poids assez redoutable pour faire avancer justement nos idées.
Vous êtes vous-même d'origine vendéenne?
Ah oui, totalement, effectivement. Et en fait, cette...
Vous racontez que votre passion pour la Vendée, c'est venu en fait de très jeune, semble-t-il. Non, c'est venu très jeune.
Oui, c'est-à-dire que en écoutant, je dirais, la maison à la veillée, mais je crois que la passion, elle a surtout surgi en 89. Un jour, on s'est retrouvé dans la ferme familiale, trois cousins. C'était juste après les délires du défilé de Jean-Paul Goude sur les Champs-Élysées.
Doublement délirant, d'ailleurs.
Voilà, et on s'est dit, bon, nous, on est dans ce lieu historique qui nous tient à cœur, puisque c'est là où notre ancêtre direct, à tous trois, a été massacré après la prise de Boin, le 5 décembre 1793. Et d'ailleurs, sa veuve, donc notre ancêtre, qui a dit ensuite, lors d'une déposition, qu'elle en a valu moins pour le reste de ses jours. Et on s'est dit, voilà, nous sommes en 89, en 93, il faut qu'on fasse quelque chose. Effectivement, on a réussi à faire un grand rassemblement familial, nous étions 450. Et avec participation d'un historien local, etc. Donc ça, c'est un peu l'histoire, c'est une partie, je dirais, de ce qui a un peu suscité mon goût pour cette histoire locale. Mais aujourd'hui, donc nous sommes dans un pays où le thème de repentance est très à la mode.
Enfin, dans un certain sens,
absolument. Sens, oui. Et nous, en tant que descendants des martyrs vendéens, on a offert notre pardon pour les crimes commis, mais par contre, on a été troublés. Moi, je suis assez fort agacé de voir que la République, elle, n'a pas fait son mea culpa. Et ça, c'est proprement insupportable. Parce que non seulement elle n'a pas fait son mea culpa, mais elle peut être taxée d'un crime de mémoricide. C'est-à-dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs, c'est clair, et on ne l'a que trop vu. Donc dans les manuels scolaires, je suis en train d'ailleurs de répertorier, à chaque fois que je vais chez un bouquiniste, nous achetons des manuels scolaires qui traînent, et c'est impressionnant. Effectivement, l'histoire a été écrite par les Michelet, les Malaisac, donc la communauté protestante et juive. Donc effectivement, on ne pouvait pas tellement attendre de compassion, nous, les pauvres catholiques vendéens, de la part de ces gens-là. Et donc le résultat est là, c'est-à-dire qu'on a eu des chairs d'histoire contemporaine qui ont été trustées effectivement par les communistes.
Les marxistes.
Par les marxistes, oui, disons-le, et jusqu'à ce qu'il y a eu Furet. Furet, ça a été effectivement au moment de la commémoration, ça a été vraiment une révélation pour nous. Donc Furet, Chaunu et Rénal Sécher, et ensuite Alain Gérard.
Plus récemment,
Alain Gérard, qui a fait un travail remarquable, vraiment remarquable. Là encore, récemment, je relisais l'un de ses ouvrages, D'une guerre à l'autre, où il démontre très clairement que Thurot, donc, a eu dans ses fonctions accès aux archives et qu'il a réussi à falsifier les archives pour obtenir sa croix de Saint-Louis du duc de Berry. Il faut quand même le faire. Mais Savary, derrière, a quand même réussi à le charger en disant, attention, là, il y a eu falsification.
C'est incroyable. Vous racontez cette anecdote qui m'a plu. Là. Vous n'avez pas écrit de livre, hein, je dis, mais enfin, on a échangé.
Non, moi,
ça,
je ne suis pas historien, je suis simplement vendéen et j'entends défendre la mémoire de mes ancêtres, c'est tout.
Tout à fait normal. Tu aimeras ton père et ta mère, c'est un des tout premiers commandements de notre Sainte Église, non?
Tout à fait, oui.
Monsieur l'abbé, oui.
Je voulais souligner que la République...
Vous qui êtes girondin.
importe. Bon, enfin,
comment on rapproche le Girondin
géographiquement. La République n'a jamais fait repentance pour rien.
Jamais.
Elle fait repentance pour des choses, pour des régimes qu'elle dit accepter d'elle-même.
Tout à fait.
C'est Vichy, voilà. C'est vrai. Mais pour elle-même, elle n'a fait repentance de rien du tout. Elle, même pas de la colonisation, ce qu'on pourrait attendre quand même aujourd'hui, la moindre des choses. C'est les fourgons de l'étranger pour qu'on fait repentance. Pas pour soi-même.
À tel point que le jour d'inauguration du mémorial vendéen qui avait été organisé par Philippe de Villiers, donc c'est en 93, il y avait la présence de ce génocide, c'était une soirée extraordinaire. Nous étions 30 000 avec 800 choristes et pays de l'Est.
Et le discours de Solzhenitsyn,
tombé à Rome. Sincèrement, j'étais avec mes cousins germains et on se passait pour dire mais je rêve. On pensait qu'il allait avoir une reprise dans la presse le lendemain. Pensez donc. Non.
Et la République était représentée par qui ce soir?
Personne, justement. Alain Decaux était là. Et Alain Decaux a commencé son discours en disant « Je viens, pas au nom de la République, parce que je ne prétends pas représenter la République, mais en tant qu'historien républicain, pour témoigner des crimes qui ont été commis. » Et là, d'ailleurs, à ce moment-là, il a été sifflé par l'Assemblée, et Philippe de Villiers a dû intervenir au micro en disant « S'il vous plaît ». Voilà. Mais il n'y avait personne pour demander pardon ce jour-là. C'est ça qui était grave aussi.
Non, c'est contraire au principe. Elle est vêtue de lin blanc et de probité candide. Non, quand absolument. Le président de la République va demander pardon pour les crimes de l'Empire en Espagne,
ouais.
L'Empire est à ce moment-là pas la République, c'est bien connu. Voilà. Elle non.
Or, les crimes qui ont été commis là-bas dépassent l'imagination. C'est des crimes de pure barbarie.
Vous dites, je m'excuse, mais c'est parce que c'est intéressant. Il faut toujours des choses concrètes. Vous dites que quand vous êtes arrivé à Paris, vous aviez 19 ans. Donc,
oui, absolument.
Pas si longtemps que ça, en fait.
Oui, je venais de faire ma prépa. Donc,
voilà, à Nantes. Un de vos meilleurs copains.
Tout à fait. Je l'avais rencontré dans une université d'été en Espagne.
Il descendait du président Sadi Carnot.
Effectivement, ça avait été le ministre Carnot.
Il descendait de Lazare Carnot.
Exactement. Et un jour, on se retrouvait dans son salon, rue du Sergent-Roff, et il sort un bouquin de sa bibliothèque, un beau bouquin 18e, relié plein de peau. Et il me dit, tiens, regarde, toi qui vendais un, ça, c'est quelque chose qui va te surprendre. Et donc, il m'a demandé de deviner. Bon, là, j'ai dû donner ma langue au chat. Et il m'a dit, ben voilà, ce bouquin, il est relié en peau humaine. En peau de Vendéen. Alors bien sûr, j'étais assez interloqué, assez perplexe. Et donc, il m'a donné la filiation de ce bouquin, venant de Lazare Carnot. Alors ça a été, effectivement, j'ai jamais oublié. D'ailleurs, on se revoit régulièrement. Il est passionné d'histoire aussi.
Il y a plusieurs livres de ce type. Il y a même la Constitution de 93 qui n'a jamais été appliquée, mais enfin, qui est aussi reliée en peau humaine. Enfin, on a comme ça des choses tout à fait curieuses dans le musée des grandeurs de la République.
Voilà, et donc en 93, René Sécher vient faire une conférence à Salle Cadoret à Versailles. J'y assiste, et là, sur son écran, il projette une diapo, une pleine peau, qu'il avait découverte au fort de Vincennes en faisant sa thèse, lorsqu'il avait été envoyé par Chenu faire sa thèse sur la Vendée. Et puis, plus récemment, ce scandale qui a eu lieu au musée de Nantes, où là, on a présenté dans les vitrines une peau tannée aussi, en prétendant que c'était une peau de républicain et que le dit républicain avait donné sa peau à la science. Mais le problème, c'est que certains ont enquêté et il n'y avait strictement aucun texte justifiant le commentaire. Donc,
on sait qu'il y avait des tanneries de peau humaine, enfin au moins on le sait, et puis sans doute ailleurs.
Effectivement, on a plusieurs témoignages que je reprends dans mes courriers, que j'ai envoyés d'ailleurs à l'ensemble des 577 députés. Et je trouve franchement anormal qu'il n'y ait qu'une douzaine de députés qui m'aient répondu. Alors, j'ai eu des réponses quand même très agréables, très sympathiques, hein, notamment le député, je peux le citer, c'est officiel. Enfin,
oui, on peut.
C'est Guédon, donc député maire des Sables-d'Olonne. Je suis pas surpris parce que je crois savoir que Monsieur Guédon est d'une famille justement qui a beaucoup souffert et qui avait combattu aussi dans les armées catholiques et royales.
Alors, qu'est-ce que, à part le bonheur de voir, alors vous faites quand même, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des réunions, vous essayez de... Là, vous avez fait une petite lettre qui est parue le mois dernier, qui s'appelle la lettre de vérité pour la Vendée.
Oui, absolument.
D'ailleurs, je pense que nos auditeurs qui le souhaiteront pourraient en avoir un spécimen.
Oui, tout à fait. Il suffit de...
Donc, Association Vérité pour la Vendée, 112 boulevard de la Reine, 78 000 Versailles, 112 boulevard de la Reine, 78 000 Versailles.
Voilà. Donc, en fait, l'association a trois buts. Donc, c'est la reconnaissance du génocide vendéen. C'est vrai que nous souhaitons réparation d'ordre moral, donc mea culpa, la République doit se repentir. Ça, alors là, nous serons intraitables sur ce plan. Reconnaissance aussi, je dirais, et réparation même d'ordre matériel. Je disais dans la presse hier que le prince Kinsky en République tchèque avait assigné son gouvernement pour récupérer son palais, ses cinq châteaux, qui avaient été confisqués au moment de l'après-guerre par les communistes. Nous, en Vendée, une partie de notre patrimoine a été défigurée. Quand vous connaissez le Puy du Fou, une partie du château, une aile a été totalement ravagée. La Durbelière, ravagée. Le parc Soubise, ravagé. Donc ça, c'est quand même notre patrimoine. Et sans compter
les églises,
les chapelles, etc. Et d'ailleurs, justement, j'ai repéré tout près de l'endroit où je suis né. Une chapelle qui a été détruite par une colonne Axo après la reprise de Lormoutier. Parce que le maire de ce village, Joussaume, qui était d'ascendance danoise, avait entraîné toute sa paroisse avec charrette, et donc en représailles, ils ont rasé le village et rasé la chapelle. Donc ça, c'est un projet que j'aimerais mener à bien. Ça va demander du temps, parce qu'en plus, c'est dans une zone pas très constructible, donc on a repris tous les plans, etc. On va voir comment
ça peut être une bonne... Ça va beaucoup foncer à notre...
Notre ami Cher, effectivement, je veux dire qu'il, quelque part, il me montre l'exemple.
Il est
un magnifique exemple.
Les bons exemples sont, par définition, fait pour être imité. L'apprentissage à la vertu devient une espèce d'une habitude, et on devient vertueux très facilement, comme l'habitude du vice, nous fait devenir vicieux, puis ça devient une seconde nature. Donc les bons exemples sont là pour être imités, et ceux que nous donne le camarade Reynald, doivent être
imités. Ils ont marqué toute une génération, c'est clair. Et puis surtout, reconnaissance d'ordre politique, c'est-à-dire que sur les lettres que j'ai envoyées, j'appuie surtout sur le fait que c'est totalement inadmissible qu'on ait Thurot et Hamet gravés sur l'Arc de Triomphe.
Hamet, peu connu, vous allez me dire deux, trois petits mots sur Hamet.
Alors là, c'est...
J'avoue que celui-là, c'est pas un dont je me souvenais bien du nom.
C'est loin d'être un ange, et pourtant il a fait une carrière absolument magnifique. Comme quoi la République sait remercier ces bons soldats qui ont, comme lui, su se vanter de savoir faire cuire le pain de la République. Alors le général Hamet, donc, s'est distingué dans la paroisse des Essarts et autour des Herbiers. Et alors, sa grande spécialité, c'était de faire chauffer les fours à pain. Et une fois qu'il s'était bien chauffé, il jetait les femmes et les enfants dans les fours. On a deux déclarations assez impressionnantes où il dit clairement, c'est pour distraire mes soldats. Et donc certains, même un commissaire a voulu s'interposer, et il a fait remarquer que s'il n'était pas content, il allait lui aussi y passer. Et à la fin, il avait tellement besoin de carburant, il n'avait plus de femmes et d'enfants vendéens brigands, il prenait même les femmes patriotes. Donc les bonnes républicaines du cru qu'ils pouvaient se procurer.
Il s'agit de fours crématoires.
En quelque sorte, oui. C'est-à-dire c'est des fours à pain où on jetait les femmes et les enfants vivants dans les fours.
Ouais. C'est des fours crématoires.
C'est étonnant.
On peut utiliser le mot. Alors, il y a le populicide vendéen, qui est une expression...
De Gracchus Babeuf, repris par René Sécher. Absolument.
Bon, oui.
Non, mais là, encore une fois, ce génocide, c'est le... Pour moi, c'est le premier génocide français, franco-français, pour reprendre l'expression d'ailleurs de Reynald Secher également. Et surtout, c'est le père de tous les génocides modernes. Et ça, c'est l'expression aussi de sa génocide. Et ça, c'est indépassable. Père du génocide arménien, stalinien, hitlérien et même cambodgien, etc. Faut pas oublier effectivement que ce cher Lénine a appris les bonnes pratiques, je dirais, révolutionnaires, et puis la façon dont les Vendéens s'étaient battus. Il a appris ça pendant ses vacances au Sable d'Olonne. Donc c'était quand même, je dirais, il a eu une inspiration de première main. Voilà, donc Général May, pour revenir à lui, il a fait, comme je disais, une carrière assez fabuleuse. Il a été distingué de Croix de Saint-Louis, s'il vous plaît. Fini baron d'Empire. Et il a terminé maire de sa ville. Et là, lors d'un conseil municipal en 1975, si ma mémoire est bonne, la mairie lui a décerné, il avait déjà une rue, il a un boulevard maintenant. Donc Général May, qui savait faire cuire le pain de la République, a son boulevard à Célestat. Alors j'ai écrit au maire de Célestat, bizarrement, j'attends toujours la réponse du maire.
Pour lui, on va lui redire, on va lui refaire un petit coucou avec une piqûre de rappel. Monsieur le maire, là, si des fois vous écoutez à Célestat...
Ne vous inquiétez pas, je vais charger à lui faire une piqûre de rappel.
Soyez aimable de répondre au courrier qu'on vous envoie. Puis il a son nom aussi sur...
Et il a son nom sur l'Arc de Triomphe, bien évidemment. Donc ça, c'est pour des descendants des martyrs vendéens, c'est totalement insupportable. Et il va falloir que la République prenne en compte ce genre de revendications.
Bah écoutez,
sinon, de toute façon, comme nous l'avons mis dans une lettre, nous irons à Bruxelles. Nous, on fera plusieurs associations, enfin, on réunira plusieurs associations, et on fera une revendication globale à Bruxelles, pour que les pays voisins de la France, qui ont une très haute estime de ce pays qui se vante de défendre les droits de l'homme, sachent ce que la République a fait.
Ça, c'est une... c'est... Des fois, il y a des choses intéressantes dans Bruxelles.
Effectivement, comme de coutume ici, de vilipender l'Europe de Bruxelles. Mais je dois quand même vous dire, par expérience, que ça a parfois du bon, n'est-ce pas, toutes les situations bloquées dans la République. Absolument. Si vous voulez les débloquer, il faut passer par Bruxelles.
Oui,
que ce soit le monopole de l'État dans l'économie, que ce soit... particulièrement, et pas seulement, que ce soit les mensonges historiques, les institutions mensongères, intellectuelles, les constructions intellectuelles, donc, tout ça, vous pouvez arriver à débloquer tout ça par l'échelon. Alors, ne disons pas toujours que du mal.
Non, mais de temps en temps, quand il faut... Ben, le diable porte Pierre, hein, de toute façon. Donc,
je voulais dire que Amé et Thurot soient sur l'Arc de Triomphe, l'Empire doit être odieux aux Vendéens aussi. Ça n'est simplement que dire ce que c'est, quoi, que c'est l'héritage de la Révolution. Dieu merci, l'Empire n'est pas que l'héritage de la Révolution, mais il est aussi l'héritage de la Révolution.
Tout à fait. Enfin, ces deux-là se sont quand même pas mal distingués, je veux dire, chez nous. Et...
mais je suis sûr que vous en trouveriez d'autres, qui étaient à l'époque capitaines, colonels, brigadiers.
Exactement.
De très belles carrières. Alors, on vous posait une petite question qui est un petit peu en dehors du sujet principal, mais voilà.
Pouvez-vous donner votre opinion sur le Puy du Fou? Vous en avez parlé un tout petit peu.
Il s'agit du spectacle.
Il y a eu une très bonne émission jeudi dernier.
Oui, écoutez, j'ai une très très bonne opinion du Puy du Fou. J'y suis allé trois fois. Dernière fois en famille. Et surtout le grand parcours. Je recommande le grand parcours qui est assez remarquable. Donc je passe à chaque fois. Très bon moment au Puy du Fou. J'ai vu que, justement, ça tombe bien, le Puy du Fou n'était pas apprécié par le premier secrétaire du Parti Socialiste de Vendée, monsieur Burnelot. Donc, dans Ouest-France.
C'est comme l'Arc de Triomphe.
Comme l'Arc de Triomphe.
Dans Ouest-France, du 26 juillet, donc c'est tout récent, il a reproché au Puy du Fou de réviser l'histoire de la Vendée de façon parfois étonnante et peu républicaine. Alors là,
quel
vous voyez,
beau compliment. Cet homme est merveilleux.
Voilà. Donc là, nous avons une autre association qui s'appelle, qui est dirigée par Jacques Chauvet, qui lui a fait une magnifique lettre. Et là, je tiens à lui le féliciter et qui dit clairement que nier les faits établis, parce que désormais les faits sont établis par des historiens qu'on a cités tout à l'heure, c'est du négationniste, monsieur Burnelot. Donc, il faut pas revenir sur ces faits, et je crois que le Puy du Fou donne exactement une idée assez claire de ce qui s'est passé.
Ne serait-ce que rien que si le Puy du Fou, sa seule fonction c'était d'emmerder monsieur Burnelot, je veux dire que là, au moins ça aurait le coup de construire le Puy du Fou. Il y en a un qui disait trucs. Moi je trouve ça, je suis très content ce soir. On termine une très belle émission grâce à vous, cher monsieur. Alors on va peut-être redonner l'adresse de cette association. Donc c'est l'association Vérité pour la Vendée. Vérité pour la Vendée, c'est pas devant le micro, ce serait mieux. 112 boulevard de la Reine, 78 000 Versailles, 112 boulevard de la Reine, 78 000 Versailles. Si vous avez la gentillesse d'envoyer une petite lettre de demande, on vous enverra de la documentation. Pensez à mettre quelques timbres non estampés quand même, parce que tout ça coûte, hein, et c'est pas la vie qui va tellement subventionner votre association.
Oui. Peut-être un dernier petit mot de conclusion. Je voudrais quand même rendre hommage, féliciter, je dirais, Philippe de Villiers. Ça va peut-être vous surprendre, mais Philippe de Villiers a fait un travail remarquable en Vendée pour justement restaurer le devoir de mémoire. Et je crois que si nous n'avions pas eu un député de sa qualité en Vendée, nous en serions encore bien pire que nous sommes aujourd'hui.
C'est difficilement discutable.
Je me souviens avec émotion du colloque de 93 où j'ai fait une intervention. C'était vraiment une mémoire vive. Mais je crois que c'était la première fois qu'il y avait tant de gens, français et étrangers qui pendant une semaine presque, pendant cinq jours, les conférences sont succédées aux conférences et ont analysé clairement les situations, les difficultés historiques. Voilà.
Messieurs, nos affaires avancent, mais l'heure avance aussi. Et je vous prierai une minute.
Qui rappelle celui que je citais sur
l'heure,
puisqu'il s'agit également du prince Alphonse. Oui. J'ai souvenir d'avoir vu le duc d'Anjou arriver chez de Villiers, le papa.
Le père était encore vivant.
Il était debout pour recevoir le roi. Et tous les frères
étaient là. Il y a une grande affection entre la Vendée, les Bourbons et les De Villiers. Alors, merci beaucoup, cher monsieur Tessier. On a redonné l'adresse. Non, oui, on l'a donné, je ne sais plus. Donc, association Vérité pour la Vendée, 112 boulevard de la Reine, 78 000 Versailles. Il nous reste 2 minutes. Allez, ma petite Jacqueline, entendu, mon petit enfant. Faites une petite annonce.
Une petite annonce. L'Université de la Souveraineté Nationale, organisé par le RIF. Le RIF, c'est-à-dire le Rassemblement pour l'indépendance de la et la souveraineté de la France.
Le RIF,
oui, dont le président est Jean-Paul Bled, se tiendra cette année du 26 au 28 septembre à Artigues, près de Bordeaux. Elle prend la suite des universités d'été d'Aimé et de Valence. Cette université sera centrée sur les grandes questions d'actualité, et notamment le projet de constitution pérenne européenne, l'élargissement de l'Union européenne, le problème de la PAC, les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, les rendez-vous pour 2004, les élections cantonales, régionales, européennes, etc. L'action militante, l'indépendance, outil de promotion de la souveraineté, et le souverainisme et écologie. Alors, les participants sont Raoul Béteille, Geneviève Blas, Jean-Paul Bled, Philippe Boursier de Carbon, j'en passe parce qu'il y en a encore beaucoup.
Il y aura aussi monsieur J'en passe alors.
Paul-Marie Couteau, je prends ceux que l'on connaît un petit peu plus à Radio Courtoisie. Paul-Marie Couteau, Alfred Mignot, François Legrand, Éric Lem, Jean-Michel Magnac, Michel Pinton, Pierre Pugeot, François Renoir, Roger Redonnet, Christophe Révillard, Albert Salon, et puis voilà. Le contact, Anne de Vorex, 01 34 75 19 05. Je répète, 01 34 75 19 05. Vous aurez Anne de Vorex.
Merci, ma chère Jacqueline. Donc, on se reverra pas. Vous allez partir en vacances avec vos ch'tis enfants.
Oui.
Et moi, je serai là, pas la semaine prochaine, parce que ce sera l'ami Lugan qui sera là. Nous serons là pour les trois autres mercredis d'août. D'ici là, bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du PRL et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Becquet, dirigé aujourd'hui par Daniel Amiche, avec l'assistance de Victoria et de Jacqueline Levenbruck en seconde partie. Diffusé en direct mercredi 30 juillet 2003 de 18h à 21h, en différé jeudi 31 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire.